Il est 5, 17h05, bonjour à tous. On reprend alors un travail qu'on avait commencé l'année dernière avec Pierre Damien. Merci Pierre Damien encore de travailler avec nous, cette fois-ci à distance. Alors attendez, parce que j'accepte en même temps des invitations de participants qui nous rejoignent en cours de route. Alors la séance est enregistrée. Je le redis. Je le redis. Je répondais tout à l'heure à la question de Pierre-Baptiste. La séance est effectivement enregistrée et elle sera disponible avec les autres. Je disais au moins sur le site du collectif BAM, sur notre site, dans la rubrique événements. J'ai mis le lien dans le chat. Peut-être aussi sur le tien, Pierre-Damien, si ton
Oui.
serveur est encore. Encore de l'espace, et puis on mettra peut-être aussi ça sur Peertube. J'accepte du monde. Donc on reprend le séminaire de l'année dernière, en fin de compte, qui lui-même reprenait déjà en fait un autre séminaire, il me semble, hein, les formes de l'urbanité. Ça commençait la réflexion sur les formes de l'urbanité, ça commençait même avant le séminaire de l'année dernière. L'année dernière, j'indique au passage, mais peut-être que tu vas revenir dessus, Pierre Damien. On n'avait pas pu faire la dernière séance du séminaire parce que pour ceux qui étaient, celles et ceux qui étaient là, la dernière séance avait été reportée à cause du confinement et puis de nouveau reportée et puis finalement annulée. Mais j'indique au passage que donc le texte de la dernière séance du séminaire de l'année dernière, donc du même nom, de l'espace public à la sphère sociale, est disponible sur le site internet de Pierre Damien Huyghe. Je le remets ici pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Donc le voici. En ce qui me concerne, je l'ai lu avant de commencer la séance, et tu nous laissais avec beaucoup de questions. Elles étaient très nombreuses dans ce dernier texte. Et donc, j'imagine que c'est là-dessus qu'on va reprendre, à partir de là qu'on va reprendre. Peut-être que je peux en mentionner quelques-unes que j'ai notées tout à l'heure dans ma lecture, histoire que ça nous mette peut-être un petit peu dans l'ambiance des questions qui étaient posées à la toute fin de l'année dernière. Donc, on parlait de, il était question de la socialisation de la vie humaine que tu qualifiais en ce qui te concerne donc d'un enrichissement de la vie et d'un enrichissement de la vie, d'une fourniture, tu disais aussi, d'une fourniture en éléments, en objets, en biens sociaux, et que tu finissais par qualifier d'éventuellement débordante, ou même d'effectivement débordante. Tu posais cette question, comment nous débrouiller avec cette abondance? Que faire de cette abondance? Je note cette question qui était en suspens à la fin de ce premier travail. J'ai relevé aussi une autre question qui était aussi peut-être encore plus tardive dans ce dernier texte avec laquelle tu nous laissais pour finir. Pouvons-nous être modernes sans être socialement immergés? Donc dans ce social débordant, immersif, comme on dit de nos jours, volontiers. Et tu amorçais donc une critique de l'immersion qui, j'imagine, va se poursuivre. Pierre Damien, je te laisse la parole.
Merci. Tu as fait le travail d'introduction. Je ne pensais pas, pour ma part, réévoquer la fameuse séance manquante, enfin la séance manquante du séminaire de l'an passé, puisqu'on avait été pris de vitesse par le virus, par le début du confinement. Et donc, Moi, il m'avait semblé que le mieux que je pouvais faire, c'était en effet de mettre le texte qui clôturait la première année de six séances en introduisant à sa façon le séminaire qui va venir. Je ne referai pas allusion à ce texte ou à cette séance manquante, sinon une fois dans une séance de cette année, où je reprendrai d'ailleurs une toute petite partie du texte pour faire le lien. Je précise que le séminaire de l'an passé avait en principe six séances, cinq ont été faites, il était construit sur six séances, et le texte de la dernière séance commence peut-être, si vous le téléchargez, par cinquièmement, mais c'est parce que en fait, il y a un point du séminaire de l'an passé, des cinq points du séminaire de l'an passé, qui avait occupé deux séances. Donc le cinquièmement du séminaire de l'an passé, c'est bien la sixième séance. Voilà, pour les fidèles lecteurs qui se poseraient des questions sur mon sens de la numérotation. Alors, pour cette année, j'ai préparé le petit texte que vous avez probablement lu, que je vais quand même relire très rapidement pour nous mettre tous ensemble dans l'ambiance. Je fais l'hypothèse que vous qui êtes là, vous pouvez être soit des personnes qui rejoignaient ce séminaire pour la première fois, et donc il faut qu'ils puissent commencer avec vous sans présupposer trop de choses par rapport à l'année dernière. Et inversement, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le séminaire de l'an passé, il faut que celui de cette année, embraye quand même, hein, et donc ajoute quelque chose. Voilà. En tout cas, en pensant aux deux sorte possible de public que vous êtes ce soir, j'avais écrit ce petit texte que vous avez probablement lu. Les espaces supposés publics sont le plus souvent mal nommés. Alors ça, c'est une des idées de base de tout ce travail, les formes de l'humanité 2, comme vient de le rappeler Adrien, donc ce séminaire de l'espace public à la sphère sociale, que ce que j'entends autour de moi appelé extrêmement souvent espace public, en réalité, bon, ça c'est le propos de l'année dernière, ce ne sont pas conceptuellement des espaces publics, en tout cas ce ne sont pas des espaces publics au sens premier que ce terme a pu avoir, au sens entre archaïque et archéologique de ce terme-là, ce sont plutôt des espaces sociaux. Donc, je reprends mon texte introductif, les espaces supposés publics sont le plus souvent mal nommés, on devrait les nommer espaces sociaux. Ce sont moins donc d'une part des espaces que des environnements, et ils sont plus sociaux que publics. Donc ils sont deux fois mal nommés. D'une part, donc je pose que ce sont des environnements plutôt que des espaces, et ils sont plutôt sociaux que publics. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je dis une chose pareille? Qu'est-ce que c'est que cette différence que je suis en train de vous proposer entre le social et le public, le registre du social et le registre du public? Pourquoi, en outre, le premier de ces mots que je viens de dire, le social, est-il, le premier de ces mots, le public, est-il moins prisé? Non, décidément, je dis les choses à l'envers. Pourquoi le mot social est-il moins prisé quand il s'agit de nommer les espaces que le mot public? Alors, après le séminaire de l'an passé qui montrait, j'espère, comment et pour quelles raisons nous pouvons tenir, nous, aujourd'hui encore, à la distinction entre le registre du privé et celui du public, mais aussi ce séminaire de l'an dernier qui montrait, j'espère, comment et pourquoi la distinction entre privé et public, je dis bien privé et public, je ne dis pas privé et social, hein, comment et pourquoi la distinction entre le privé et le public est archéologiquement constitutive de la notion de spatialité pour les humains que nous sommes. Le séminaire, après ce séminaire-là, donc le séminaire de cette année, celui de 2021, va prendre le parti de chercher positivement, pour ainsi dire, les qualités spatiales possibles d'un monde à vie sociale développée. Alors, ma thèse pour commencer donc serait celle-ci. Nous sommes nous aujourd'hui. Peut-être que pour penser ce que nous entendons encore par espace privé et espace public, il faut que nous nous retournions vers une longue histoire qui a commencé il y a longtemps et qui nous a proposé, qui a posé d'avance pour nous la distinction entre privé et public. Mais pour penser les qualités sociales, peut-être il faut que nous regardions davantage le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, parce que c'est ce monde qui a développé la vie sociale. La thèse, disons, d'ordre historique qui est derrière, c'est que, au fond, les hommes d'autrefois, nos prédécesseurs dans l'histoire, avaient probablement une vie sociale moins développée que la nôtre aujourd'hui. Et nous avons besoin, par conséquent, dans la mesure où nous sommes des vivants d'aujourd'hui, des vivants dans un monde social développé, il faut que nous parvenions à penser les qualités de cet espace et, si possible, de penser positivement ces qualités. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de critique à faire aux espaces sociaux d'aujourd'hui, mais cette année, donc la critique, je la réserve pour l'année prochaine, donc je vous annonce déjà, si vous voulez, un séminaire l'année prochaine, la critique, ça sera pour l'année prochaine. Je pense qu'il faut cette année essayer de chercher les qualités positives possibles d'un espace, d'un monde à vie sociale développée. Donc c'est le projet. Voilà le projet de cette année. Alors si vous voulez, sur cette base qui récapitule le projet d'ensemble de cette année, je vous propose de commencer plus véritablement, plus précisément, cette séance. Alors, je pense que ça sera une séance introductive et que la promesse que je viens de faire de parler des qualités spatiales possibles d'un monde à vie sociale développée, donc d'en parler positivement, c'est peut-être quelque chose qui commencera vraiment à s'entendre que la semaine prochaine. Donc, cette semaine, si vous voulez, j'introduis. Il s'agira donc cette année de sortir de la proposition négative qui nous était faite l'année dernière par Hannah Arendt. Ceux qui étaient là ou celles qui étaient là l'an dernier s'en souviennent peut-être, cette phrase sur laquelle je m'arrête si souvent, où Hannah Arendt dit « le social n'est ni privé ni public ». C'est une définition négative. On sait que le social, pour elle, ça n'est pas le privé et ça n'est pas le public, mais ça ne nous dit pas positivement ce que c'est que le social, en tout cas pour elle. Donc, la tâche serait, pour moi, à partir de tout de suite, de sortir de cette proposition négative d'Anna Arendt et de regarder autant que possible la société en positif et de tâcher à la pensée moins comme une sphère qui englobe, c'est le titre du séminaire de l'espace public à la sphère sociale. Donc, il y a quelque chose qui travaille là-dedans. Hein. C'est qu'on pense souvent la société, par exemple, c'est des choses très simples, j'en avais parlé l'an dernier, comme un milieu dans lequel on s'immerge aussi, tu l'as repris, Adrien, dans ton introduction. Donc, ça suppose qu'on est englobé par la société. Donc, je vais essayer de tâcher à penser positivement le social, moins comme une sphère qui englobe, positivement mais pas comme une sphère qui englobe, moins comme un environnement qui ne cesse d'entourer, un environnement qui nous entoure, moins encore comme un milieu qui serait omniprésent. Donc, je voudrais essayer de penser positivement le social en écartant toutes ces propositions entre langagière et conceptuelle. C'est une sphère englobante, la société ou le social, c'est un environnement qui nous entoure, ou bien c'est un milieu omniprésent, c'est-à-dire inévitable pour un humain d'aujourd'hui. Je voudrais écarter ces propositions notionnelles, qui sont en même temps d'ailleurs métaphoriques, hein, qui se présentent là, et je voudrais essayer donc de la penser positivement comme un élément relatif, capable, en raison même de sa relativité, de participer à la constitution de cette spatialité que je supposais l'année dernière essentiellement polaire. J'avais essayé d'expliquer en suivant tout au début une proposition de Georg Simmel, chez qui j'avais trouvé la différence, où il me semblait qu'on pouvait trouver une différence entre une étendue et un espace. Et je crois avoir pu lire chez Simmel que pour qu'il y ait un espace, il faut qu'il y ait des polarités, des pôles. Voilà. Privé et public, ce sont des pôles. Ils se présentent pas de la même manière. On n'y passe pas dans le même temps. Ils sont donc différenciés. Ce sont des pôles. Et c'est précisément parce que ce sont des pôles différents qu'il y a de l'espace par le fait même. Il me semble que c'est, en tout cas, c'est à cette notion d'espace que je tiens ou que va tenir toute la réflexion que je vais essayer de développer une fois de plus cette année. Donc, je voudrais vous proposer de participer, de penser le social, pardon, comme participant à la constitution de notre spatialité, la spatialité humaine, en tout cas contemporaine, mais je dis bien spatialité, hein, c'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à comprendre le social comme un pôle de nos existences, le privé et le public en étant deux autres, comme un pôle d'existence. Je voudrais essayer de penser donc la société, la spatialité sociale comme, avec la société comme essentiellement polaire, ce que je vous proposais donc déjà l'an passé, au tout commencement, lorsque je suivais une réflexion de Georg Simmel. Alors, je vais reprendre quand même ce soir, pour commencer ce travail, quelques hypothèses de l'an passé. Nous avons considéré, ou ceux ou celles qui étaient là l'an dernier, ont peut-être pu considérer avec moi, a priori, qu'il fallait distinguer, je viens de le rappeler, l'espace de l'étendue. Pour ceux ou celles qui n'étaient pas là l'an passé, on ne fait pas un espace, voilà ce que ça veut dire, la distinction entre espace et étendue, on ne fait pas un espace en mettant une chose à côté d'une autre et ainsi de suite. En mettant une chose à côté d'une autre et ainsi de suite, on étend, on fabrique une étendue, mais ça ne fait pas nécessairement un espace. Pour former un espace, pour qu'il y ait espace, il faut que soit installé une distance entre deux points qui ne sont pas identiques, qui, de ce fait, deviennent des pôles. C'est en raison de la séparation entre ces pôles, entre au moins deux pôles, que l'espace se constitue ou se constituerait. Ça, c'est l'hypothèse conceptuelle radicale de tout ce séminaire, celui de l'an passé, celui de cette année, et je pense déjà à celui de l'année prochaine. C'est en raison de la séparation entre au moins deux pôles que l'espace se constitue ou, si vous voulez qu'on reste un peu plus hypothétique, se constituerait. L'entre-deux, par conséquent, est essentiel à la notion d'espace. Alors que ce n'est pas essentiel à la notion d'étendue. Dans l'étendue, ça serait plutôt du côte à côte, et ainsi de suite. Ceci, puis cela, puis cela, puis cela, etc., comme une banlieue qui s'étend sans fin. Pour qu'il y ait espace, il faut qu'il y ait un entre-deux, c'est tout à fait essentiel à la notion même. Est-ce que c'est dans l'entre-deux archaïque, entre le pôle privé, le pôle de la vie privée, et le pôle public, le pôle de la vie publique, est-ce que c'est dans cet entre-deux que la vie sociale a trouvé historiquement son champ, comme si elle était venue occuper l'espace entre, dont, d'une certaine manière, parlaient à leur façon les textes d'Anna Arendt que nous lisions l'année dernière. Est-ce que c'est dans l'entre-deux du privé et du public que la vie sociale a trouvé son champ? C'est, je crois, ce que le propos d'Anna Arendt, que peut-être j'ai trop lu l'année dernière ou trop littéralement, me donnait, au moins pour ma part, à penser. Conséquence de cette hypothèse arendtienne, si, comme elle le dit, la vie sociale s'est développée avec les temps modernes, alors il ne faut pas s'étonner que ces temps se soient affairés dans leur extension progressive à envahir et à occuper l'espace. Je pense que si on suit Anna Arendt sur la rigueur de son vocabulaire, la façon dont elle pense le social, je crois que je vais y revenir tout à l'heure, ni privé ni public, et ça s'intercale, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase, entre le monde privé et le monde public, rendant, bouleversant la nature de l'un et l'autre. Donc, intercalé. Est-ce que c'est ça la société, ce qui est venu s'intercaler entre le pôle privé de la vie et le pôle public de l'existence? Si c'est ça, il ne faut pas s'étonner finalement que le monde social, un monde dans lequel une société, une vie sociale se développe, envahisse, occupe l'autre deux nécessaire à l'espace, c'est-à-dire envahisse, occupe l'espace. C'est-à-dire que ce qui est social, ça s'étend, c'est une étendue, ça occupe l'entre deux. Autrement dit, ça ruine l'espace, ça ruine la spatialité. Concrétiser cette proposition conceptuelle que je suis en train d'examiner pourra ou pourrait se dire comme suit: plus la vie se modernise, moins il y a de place entre les lieux que nous pouvons fréquenter, et plus la dissemblance de ces lieux s'efface. Si on suit une certaine tendance du texte d'Anna Arendt, voilà ce que je crois on est amené à penser de la société. Plus la vie se modernise, société qui vient, dit Anna Arendt, avec les temps modernes, plus la vie se modernise, autrement dit, plus elle se socialise, moins il y a de place entre les lieux que nous pouvons fréquenter, et plus la dissemblance de ces lieux, plus leur ponctualité ou leur polarité spécifique s'efface. Exemple, pour que ce soit plus clair, toutes les villes tendent à se ressembler, sauf peut-être dans ce qu'il leur reste d'historique, j'y reviendrai, mais même là, dans leur cœur historique, toutes les villes aménagent désormais de la même façon leur cœur historique, qui est dissemblable des autres cœurs historiques, mais elles l'aménagent de telle façon, elles le préparent pour qu'il soit disponible à l'économie et au spectacle touristique, par exemple. Donc on peut soutenir, au moins formuler cette idée, cette hypothèse, que, je veux dire très simplement ce que je viens de dire de façon plus compliquée, de plus en plus les villes partout se ressemblent. Alors, ça serait le signe de l'extension de la vie sociale. Et d'ailleurs, dans ces villes qui se ressemblent, les activités que les humains développent se ressemblent de plus en plus. De même, dans un monde par hypothèse socialisé ou même seulement à moindre échelle, dans un lieu qui serait ménagé pour que puisse s'accomplir une vie sociale, le public n'a pas son point de repère. Dans un monde où la vie sociale est développée, il n'y a pas ou il n'y aurait pas de place qu'on puisse vraiment dire publique. Ça, c'était des choses que j'essayais de dire l'année dernière. Il n'y a pas de place qu'on puisse vraiment dire publique. Les agora à foyer vide disparaissent. Les places sont occupées, par exemple, pour des marchés, par des marchés. On a des expressions aujourd'hui comme centre commercial qui sont peut-être centre commercial. Donc le centre de la vie, c'est pas le lieu où on discute politiquement ou bien l'oikos dans lequel on se retrouve avec les siens. Non, c'est un lieu dans lequel il y a un marché. Et puis, dans nombre de places, on dit public, mais qui ne le sont peut-être pas véritablement, eh bien, on trouve des objets, des constructions qui occupent cet espace, qui sont des constructions des objets sociaux. Donc, il y a peut-être pas de place qu'on puisse vraiment dire publique dans un monde où la vie sociale s'est développée, et ça reviendrait au même dans l'hypothèse d'Anna Arendt, dans un monde qui s'est modernisé. Nous pouvons encore examiner combien, dans la même condition, tente aussi à disparaître la distinction entre l'au-dehors et l'au-dedans. Étant donné que dans cette distinction, aucun des deux termes n'existe en soi, mais seulement par relation différentielle, hein, le dedans c'est le dedans du dehors, mais par rapport au dehors, et le dehors c'est le dehors par rapport au dedans, donc c'est des notions relatives. Étant donné que dans la distinction entre le dedans et le dehors, aucun des deux termes n'existe en soi, mais seulement par relation différentielle, dire que la distinction entre le dedans et le dehors tend à disparaître, c'est dire que des activités semblables peuvent s'étendre ici comme là. On peut se tenir dehors comme dedans, ça serait peut-être un marqueur du développement du caractère social de la vie, ou, dans l'hypothèse d'Arendt, de la modernisation de la vie humaine, ce fait qu'on peut faire dehors des choses qu'autrefois on faisait dedans et seulement dedans, comme par exemple s'embrasser dans la rue, des choses aussi simples que ça. Voilà. On peut se tenir dehors comme dedans, et à vrai dire, il y aurait de plus en plus qu'apparence de dedans et de dehors. Je pense que c'est un thème qui est chez Arendt, c'est le thème arendtien, donc, de l'abolition des quatre murs, hein, quand elle parle dans la crise de la culture, de la disparition des quatre murs qui abritaient autrefois la vie, seulement la vie humaine. Et elle médite là-dessus, sur la disparition des quatre murs. Et donc, ça veut dire que, par exemple, des soins qui étaient apportés autrefois à l'intérieur, au-dedans de l'oïkos, sont désormais socialisés. Ça se fait au-dehors de l'oïkos, dans des centres médicaux, dans des hôpitaux, dans des lieux de repos, etc., etc. Tout ça donne une description intéressante, c'est Anna Arendt, plausible, de la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la vie modernisée, c'est-à-dire aussi pour elle de la vie socialisée. Mais pour cette année, si vous voulez bien, pour nous, entre nous, il ne s'agira pas de passer notre temps de réflexion à regretter la situation où nous sommes, celle d'être des humains modernes et socialisés. Donc je voudrais poser ça comme point de départ de nos réflexions de cette année. Nous allons faire dire tout ce que nous pourrons pour qu'il n'y ait pas dans nos propos de regrets sur la situation dans laquelle nous sommes, et pour essayer de ne pas porter sur notre situation d'humain socialisé et modernisé un regard qui serait seulement placé entre nostalgie et réaction. Le fait social ne peut pas ne pas avoir un motif. Et c'est ce motif qu'il faut comprendre sans préjuger de sa clôture, sans présupposer de sa complétude, sans le présupposer complet. Peut-être que le fait social n'est pas clos, que nous n'avons, je vais y revenir sur cette expression dans une seconde, que nous n'avons pas fait le tour de ce qui était possible avec cette dimension de l'existence humaine qui est la vie sociale. C'est pas clos, ça n'est pas complet, l'histoire n'est pas finie, l'histoire de la société n'est pas finie. Mais au contraire, il va nous falloir peut-être présupposer, en tout cas c'est ce que je vous propose, pour considérer positivement notre statut d'être sociaux, peut-être va-t-il nous falloir faire l'hypothèse que la vie sociale, aussi moderne soit-elle, nous autres, aussi modernisés soyons-nous, nous manquons encore d'un certain supplément. Si on n'est pas dans une approche réactive de la vie sociale, si on n'est pas nostalgique des temps d'autrefois, peut-être comme l'est un peu ou une certaine tendance des textes d'Anna Arendt, alors nous pouvons ouvrir une hypothèse plus difficile à penser, c'est plus facile d'être nostalgique et réactif, une hypothèse plus difficile à penser qui serait que la vie sociale qui s'est étendue ou la dimension sociale de la vie qui s'est étendue avec les temps modernes manque encore d'un certain supplément et qu'il nous faut le chercher. Si par exemple, je dis que les lieux où la vie sociale s'est développée manquent de quelque chose, je n'invite pas à passer outre ces lieux, je dis seulement qu'ils ne sont pas suffisants. Et en fait, je pense que ça serait la formule sur laquelle je vais m'accrocher pendant les 5 séances qui sont encore devant nous. C'est que la dimension sociale dans laquelle nous ne pouvons pas ne pas passer du temps, nous autres qui sommes des êtres modernes, modernisés, cette dimension, elle n'est pas suffisante. Même si les lieux qu'on dit sociaux, les endroits où il y a beaucoup de vie sociale, si vous voulez, même si ces endroits se conçoivent parfois eux-mêmes avec une certaine suffisance. Nous allons essayer cette année de les considérer comme n'étant pas suffisants, quand bien même ceux qui tiennent à ces lieux sociaux pensent souvent ces lieux avec suffisance. Et si mon propos tout de même a quelque chose de critique, aura tout de même quelque chose de critique, ce qu'il met ou mettra en cause, ce ne sont pas l'existence ni le principe, par hypothèse moderne, de la vie sociale, mais ce sera leur prétention et, dans une certaine manière, leur orgueil. Ce que je vais, par conséquent, essayer de faire, c'est penser le plus positivement que je pourrais ce que c'est que la vie sociale. Et pour penser positivement, le plus positivement possible, la vie sociale, il faut peut-être la défaire elle-même de son propre orgueil, de l'idée qu'elle se fait, ou qu'on se fait quand on est socialisé, que ça suffit pour penser la vie humaine. Alors, ça ne suffit pas, puisque ça, nous l'avons vu l'année dernière, j'espère, pour penser la vie humaine, il faut encore penser à la dimension privée et à la dimension publique. Donc, ma ligne de pensée, si vous voulez, ça va être de critiquer la suffisance du social, et par conséquent, ça va être de vous proposer de dire, en fait, le social se pense insuffisamment lui-même. Beaucoup aujourd'hui, je le sais, ne pensent pas dans ces termes-là. Beaucoup aujourd'hui préfèrent dire, en substance, que nous avons fait le tour de l'expérience moderne, hein, parce que, au fond, ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne sommes pas assez modernes, nous ne sommes pas assez sociaux, nous pensons notre état moderne et notre état social avec trop de suffisance, trop d'orgueil, hein. Autrement dit, il y a encore quelque chose à faire, bon, pour le dire tout simplement, hein, dans le registre du social. Mais beaucoup ne sont pas de cet avis, parce que beaucoup pensent aujourd'hui que nous avons fait ou que nous aurions fait le tour de l'expérience moderne, autrement dit que nous l'avons assez pratiqué et assez pensé, et que l'heure est venue ou serait venue, selon les cas, du post-moderne, du surmoderne ou de l'hypermoderne. À chaque fois, j'ai un auteur dans la tête, hein, de référence. Tous termes, post-moderne, surmoderne, hypermoderne, que je ne saurais, pour ma part, considérer comme absolument défait une certaine nostalgie pour l'autrefois. Je pense que tous ceux qui parlent comme ça, du surmoderne, de l'hypermoderne, du postmoderne, ils sont quand même toujours en train d'avoir une certaine nostalgie pour un temps qui est supposé dépasser, mais dont on n'arrive pas à ne pas parler, dans une certaine mesure. Bien sûr, il y a pour le moins des nuances entre tous les discours que je viens d'évoquer à gros traits. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, le postmoderne, le surmoderne et l'hypermoderne. Bien sûr, donc, il y a des nuances entre tous ces discours et tout ce vocabulaire. Mais tous ces discours, au fond, présupposent que nous aurions assez goûté à la modernité et que nous saurions assez ce qu'elle est. Je ne suis pas de cet avis, moi qui pense, comme je l'ai écrit, que nous sommes des modernes sans modernité, c'est-à-dire des modernes qui n'ont pas assez à faire à un élément de la vie ou de l'existence, peu importe pour le moment, qui ne peut venir qu'avec la modernité même. Mon idée, quand je dis nous sommes des modernes sans modernité, une traduction possible de cette idée, c'est que nous n'avons pas, ça nous manque, il n'y a pas de suffisance là. Nous n'avons pas assez à faire à un élément, lequel on va chercher bien sûr, qui ne peut venir qu'avec la modernité. Cette modernité même, j'y reviendrai, n'est sûrement pas tout à fait absente, mais elle est aujourd'hui particulièrement, me semble-t-il, en souffrance, c'est-à-dire qu'elle attend encore, cette modernité dont je reparlerai, elle attend encore, en somme, qu'on vienne la prendre en charge et que, par conséquent, on s'occupe d'elle. Je joue un peu sur les mots, comme souvent. Non, un colis en souffrance à la poste, c'est un colis que personne n'est venu chercher, que personne n'a pris en charge. Donc, en fait, je pense qu'une des choses qui fait que la situation sociale de la vie dans laquelle nous nous trouvons n'est pas suffisante, et qu'elle a tort de se croire telle, c'est que en réalité, elle laisse en souffrance, elle qui se dit pourtant moderne, modernisée, elle laisse en souffrance quelque chose qui appartient à la modernité et qu'elle n'est pas allée chercher, et que nous n'allons pas suffisamment chercher. Voilà en gros ce que je pense. Donc, je pense que quelque chose, pourquoi le mot de modernité convient, j'y reviendrai, est en souffrance et attend, en somme, qu'on vienne le prendre en charge et que, par conséquent, on s'occupe de ça. Alors, je veux préciser clairement que ce type de position que je suis en train de vous dire a fait l'objet d'un vif désaccord avec Bernard Stiegler en 2005-2006. De ce désaccord, un écho s'entend dans l'archive sonore d'un séminaire que j'avais essayé de tenir cette année-là à la demande de Bernard Stiegler. Et cette archive, il se trouve qu'elle a été retirée du site de l'IRI en 2020. Et par conséquent, peut-être il faudrait que je la republie, cette archive, pour mon propre compte et sur mon propre site. Mais c'est important pour moi aujourd'hui, et c'est pas inamical ce que je suis en train de faire. Au contraire, je regrette qu'on ne puisse plus discuter avec Bernard Stiegler puisqu'il n'est plus là, malheureusement. Mais je veux quand même signaler qu'entre lui et moi, lui qui parle d'hypermoderne et moi pas, par exemple, mais aussi sur la notion même de modernité, nous avons eu un désaccord, et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien que j'en parle, c'est bien que je le signale, alors je le fais. Alors bien sûr, ça sera l'un des enjeux du séminaire qui s'ouvre à partir de maintenant, que de revenir sur la thèse d'un manque de modernité des sociétés modernes. Évidemment, c'est une thèse compliquée, hein, c'est ce que me disait Bernard, tu fais dans la dentelle. C'est trop compliqué. Voilà. On va essayer de clarifier. Voilà. Ça sera l'un des enjeux du séminaire, donc, que de revenir sur cette thèse que je viens de dire, d'un manque de modernité des sociétés modernes, par hypothèse celles dans lesquelles nous nous mouvons, vous et moi. Mais d'abord, je voudrais tirer quelques conclusions de l'idée plus générale qui est en train de s'affirmer dans mon propos, à savoir que ces sociétés dans lesquelles nous nous mouvons, qui par hypothèse ont développé le champ social, sont à penser comme insuffisantes. C'est mon hypothèse pour cette année, c'est que les sociétés modernisées, qui sont des sociétés, alors c'est compliqué, je sais bien, qui ont un rapport défaillant à la modernité, qui ont un rapport manquant à la modernité, ces sociétés sont à penser comme insuffisantes. Elles ne le sont pas provisoirement, elles le sont inévitablement. C'est ma thèse, que il n'y a pas de société qui sera jamais suffisante. Il n'y a de société qu'insuffisante. Et c'est ça qu'il faut penser. C'est ça que je vous propose d'essayer de penser cette année. Et c'est ça qui est bien, si je peux parler un peu trop simplement, que les sociétés soient insuffisantes. C'est quand on n'arrive pas à les penser comme insuffisantes que quelque chose est en souffrance et que ça va pas bien pour nous. Voilà. Ce serait ça mon idée, si vous voulez. La vie sociale modernisée n'est pas provisoirement insuffisante, elle l'est inévitablement. Autrement dit, il ne s'agit pas d'imaginer pouvoir parfaire les sociétés modernes, ni même d'envisager la possibilité de cette perfection. Et c'est précisément ce manque de suffisance, et même ce manque renouvelé de suffisance, qui peut faire la qualité du social. La qualité d'une société, au fond, c'est lorsqu'elle parvient à entretenir avec elle-même l'idée de sa propre insuffisance. Je tâcherai, bien sûr, de dire en quoi ce manque renouvelé d'insuffisance peut faire la qualité du social. Mais je tâcherai d'être autrement dit plus précis et plus clair, mais là est bien l'idée régulatrice du séminaire de cette année. Là est bien l'hypothèse du séminaire de cette année, idée et hypothèse, idée régulatrice et hypothèse, dont je peux, pour l'heure, tenter de vous faire comprendre l'enjeu a contrario, en disant que ce qui ne va pas, ce qui pourrait expliquer le mal-être et le malaise humain aujourd'hui, c'est la suffisance du social. Ou toute une façon de le rendre non pas seulement important, mais imposant. La suffisance du social, c'est l'imposition, le caractère imposant du social. C'est ça qui peut-être produit le mal-être et le malaise. Et par conséquent, il nous empêche, quand il s'impose le social, quand il se présente comme suffisant, ou comme, je ne sais pas comment dire ça, le nec plus ultra de la vie humaine, il nous empêche à ce moment-là de regarder ailleurs. Bon, ma thèse, c'est que, le bien-être, qui est donc le contraire du mal-être, du malaise, nous irons mieux, si vous voulez, à partir du moment où nous pourrons regarder ailleurs que dans le social. Et ça veut dire à partir du moment où la vie sociale elle-même nous laissera regarder ailleurs, c'est-à-dire à partir du moment où cette vie ne s'imposera pas, ne sera pas pour nous imposante et suffisante. Je ne pense donc pas le social comme l'espace où pourrait venir s'achever l'existence humaine. Celle-ci, cette existence, étant aussi concernée, comment, c'est ce qu'il faudrait parvenir à dire, par d'autres conditions dont nous avons traité l'an passé, celle de la vie privée et celle du questionnement public, par exemple. Il faut que nous continuions à avoir une vie privée et à nous questionner dans un espace qui serait véritablement un espace public, hein, et pas un espace occupé par la suffisance sociale. Donc il est important que notre vie soit concernée par d'autres pôles que le social. La société dans mon esprit, est une condition de plus pour l'existence sociale, pour l'existence humaine, pardon, et pas ce qui va remplacer les pôles archaïques qui viennent de plus loin, de plus loin dans l'histoire, qui sont les pôles de la vie privée et de l'existence publique. Donc, la société donc est une condition de plus pour l'existence humaine, et à cette condition de plus, les précédentes, privées et publiques, ne sont pas réductibles, quoi qu'il puisse sembler. C'est une partie du problème, d'ailleurs, qu'il ne semble pas qu'il puisse en être ainsi. J'ai commencé à dire de cela la prégnance particulière. Elle perturbe la spatialité ancrée sur la distinction privée-publique. L'excès, autrement dit, de place prise par la dimension sociale de la vie ou de l'existence perturbe la spatialité traditionnelle, si vous voulez, venant de loin, ancrée sur la distinction privée-publique dont nous parlions l'année dernière. Elle met apparemment en cause la notion d'un espace qui serait lié à l'existence d'un pôle public, et elle brouille du même coup la définition du champ politique. La suffisance du social, ou le caractère excessivement imposant du social, vient brouiller dans nos esprits la place de l'instance publique elle-même, c'est-à-dire de la politique. Le champ politique ou public, pour le dire peut-être plus simplement, ne paraît à nos yeux, souvent aujourd'hui, ne paraît plus clairement défini, et on ne sait pas vraiment aujourd'hui où la société s'impose, est trop imposante. On ne sait pas vraiment dans la rumeur ambiante produite par cette imposante dimension sociale, on ne sait pas vraiment ce qui distingue, les questions sociales des questions politiques. Et il faudrait qu'on s'y mette à distinguer les questions sociales des questions politiques. C'est-à-dire à distinguer les questions politiques, vraiment politiques. Et c'est la même chose pour ce que j'inscrivais l'an passé au titre de la vie privée, dans le monde, où la société s'impose, où la vie sociale s'impose avec suffisance, avec orgueil, etc., etc. Dans ce monde-là, les questions qui se posent à la vie privée se nuancent ou se dégradent dans les questions sociales. Et réciproquement, les enjeux sociaux déteignent dans le champ des existences privées. Ça, c'était un peu, j'y reviens allusivement, le thème arendien, qu'elle regrettait justement. En particulier, c'était ça, le fait que dans un monde extrêmement socialisé, au fond, bien des questions qui traditionnellement relèvent de la vie privée sont traitées socialement. Alors, je prends un exemple très simple, si vous voulez, la garde des enfants. Voilà. La garde des enfants, dans les sociétés anciennes, c'est une charge de la vie privée. Voilà. C'est même pas une charge, c'est un soin de la vie privée. Mais dans un monde socialisé, on peut demander et penser que c'est bon pour nous qu'il y ait une garde sociale de la petite enfance. Ça, c'est un signe que le monde s'est beaucoup socialisé. Et que des questions qui sont traditionnellement, je reprends ma formule, des questions de vie privée, se nuance ou se dégrade dans des questions sociales. Je pourrais prendre d'autres exemples que celui-là, bien entendu. Je vais ajouter deux mots pour conclure donc toute cette introduction de ce soir. Le premier, non pas tout à fait, je suis pas encore tout à fait à la conclusion. Je vais ajouter deux mots simplement. Je vais ajouter deux mots pour conclure donc quand même la partie introductive de la séance de ce soir. Le premier concerne ce que je viens d'appeler dégradation ou déteinte, voilà, dégradation de la vie privée, de questions de vie privée dans des questions sociales, etc. Le mot m'était venu quand je réfléchissais à tout ça, et après je me suis dit, mais pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je pense avec ce mot-là? Qu'est-ce que ça vient faire dans mon esprit, ce mot de dégradé? Voilà. Alors je me suis arrêté sur ce mot qui m'était venu à moi-même, et je voudrais commenter un petit peu ce qu'on peut entendre par là. Pour qu'un dégradé ait lieu en peinture, il faut bien qu'il y ait diverses couleurs. Il faut donc qu'il y ait de la différence, mais une différence dont les démarcations, faute d'être manifestes, ne peuvent être situées. Même si vous dégradez un vert en bleu ou un bleu en vert, un moment vous êtes dans le bleu et un moment vous êtes dans le vert, mais quand est-ce qu'on n'est plus dans le bleu et déjà dans le vert, c'est flou. Voilà. C'est ça, c'est la distinction qu'on ne voit pas. Comme je cherche cette année à penser le plus positivement possible le champ social, je vais traduire la comparaison que je faisais il y a quelques secondes en disant, premièrement, que la spécificité du social n'apparaît pas clairement dans le vécu qu'on en a. C'est pour ça que ça se dégrade, si vous voulez. La limite de la vie sociale, on ne sait la situer ni du côté de la vie privée, ni du côté de l'instance publique. Ça se dégrade et on ne sait pas quand est-ce qu'on passe à autre chose que le social. Donc je traduis cette comparaison que je faisais moi-même en disant premièrement que la spécificité du social n'apparaît pas clairement dans le vécu qu'on en a. Deuxièmement, que d'un côté, cette spécificité se confond dans les bordures de la politique. Et quelque part, le social se confond dans le politique ou le politique dans le social. On ne sait pas très bien où est la démarcation. Et troisièmement, donc, que cette spécificité se mêle d'un autre côté à ou de la vie privée. Donc, on ne sait plus où sont. On vit dans des nuances, dans des dégradés subtils. Du social au privé, du social au public, etc. On ne sait pas où ça se démarque les uns des autres. Reste que il est bien un endroit où le social a sa couleur singulière, qui n'est donc, pour reprendre la formule de l'an dernier d'Anna Arendt, ni politique, ni privé. Eh bien, c'est dans cet endroit-là, peu importe qu'on ne sache pas très bien dans les bordures du privé et du social d'une part, d'un côté, du social et du public, de l'autre côté, comment ça se démarque, il y a bien un endroit, dans ce dégradé-là, où le social a sa couleur propre. Et bien, c'est là qu'il faut que nous arrivions à nous situer cette année pour penser le social. Il faut que nous allions là où, incontestablement, nous avons affaire à des expériences sociales. Pas des expériences privées qui se dégradent en social, pas des expériences publiques qui se dégradent en social, mais incontestablement là où le social a sa couleur propre. C'est là qu'il faut qu'on aille, c'est cet endroit qu'il faut qu'on trouve pour pouvoir penser le social. Second mot, si vous êtes encore, si je peux encore insister, j'ai lu une thèse très intéressante au sortir de l'été, et cette thèse m'a convaincu. C'était une thèse sur Simondon et Derrida en même temps. Cette thèse m'a convaincu de ce que, chez Simondon, le collectif, le groupe, par extension pour moi le social, mais je ne crois pas que ce mot de social soit vraiment simondonien, donc chez Simondon, cette thèse m'en a convaincu, le collectif, le groupe, par extension le social, relève d'une individuation spécifique, selon le vocabulaire de Simondon, qui travaille, pour ainsi dire, des éléments que la vie, dans ce qu'elle a d'individuel, ne peut pas individuer. Bon. Je ne peux pas ne pas parler un petit peu de Simondon, même si c'est un peu technique et un peu compliqué. En fait, si vous voulez, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que l'individuation chez Simondon, ce n'est pas la même chose que l'individuel. Voilà. Donc, il y a des procédures d'individuation qui existent, qui sont de l'ordre du collectif ou du groupe, chez Simondon, et qui ne sont pas accessibles aux individus. Qui sont des capacités ou des procédures spécifiques des groupes et des collectifs. Et donc, ces groupes et ces collectifs peuvent s'individuer sans que cette individuation, soit de caractère individuel au sens ordinaire du mot individu, c'est-à-dire chaque un de son côté. Autrement dit, le groupe tel que le pense Simondon n'est pas une association fonctionnelle d'individus qui interagiraient entre eux, c'est-à-dire qui contribuerait chacun pour sa part, mais solidairement à une fonctionnalité globale. Je crois que c'est quelque chose d'intéressant à poser entre nous pour commencer la réflexion de cette année. Voilà, quelqu'un qui nous a dit, mais attendons, les groupes, vous ne pourrez pas comprendre ce que c'est. Je vais dire un mot qui n'est pas tout à fait convenant, mais peu importe. Vous ne pourrez pas comprendre ce que c'est qu'un fonctionnement de groupe, ou dans le langage de Simondon, un groupe en train de s'individuer, si vous pensez que les groupes, c'est juste des collectifs d'individus qui interagissent entre eux. C'est-à-dire qu'ils contribuent chacun pour sa part et solidairement à la fonctionnalité globale du groupe ou du collectif en question. Non, c'est le dépassement d'un stade ou d'un niveau ou tout simplement d'une sorte de la vitalité. Chez Simondon, il y a des procédures et des processus, des collectifs et des groupes qui sont un stade, un niveau, une sorte de la vitalité qui excède le niveau, le stade de la vitalité individuelle, des corps individuels que nous sommes chaque un d'entre nous. Ce qui se joue là, c'est ce que Simondon appelait une transduction et une différence à comprendre encore, pour nous sûrement, entre l'inter-individuel et le trans-individuel. Alors, voici en conséquence ce que je pourrais dire pour commencer notre réflexion de cette année. Je pourrais vous proposer de dire que le champ social, s'il s'agit bien de le penser pour lui-même aussi positivement que possible, ne se trouve pas, n'est pas à penser entre le privé et le public, à la manière d'une pièce qui s'intercalerait entre les deux, inter, mais qui serait de même nature, et qui viendrait se placer dans un champ moteur constitué déjà du magnétisme privé et public. Je suis en train, si vous voulez, de sortir de l'expression d'Anna Arendt disant le social, c'est ce qui s'intercale entre le privé et le public. Je pense que la référence à Simondon m'a aidé à formuler ça. Il y va avec la société de ce que peut-être Simondon a appelé ou aurait appelé une transduction, non pas quelque chose qui est de l'ordre de l'inter, mais du trans. Une transduction, et donc, si je rapporte le vocabulaire de Simondon au mien, je dirais qu'il s'agit d'une polarité spécifique capable de mouvoir et de mobiliser autrement que le privé et le public. Autrement dit, je vais essayer de penser le social, non pas comme ce qui se trouve comme un lieu de passage entre le privé et le public, mais comme étant un pôle des existences des humains modernisés que nous sommes, un pôle. C'est-à-dire, il faut essayer de se figurer un champ magnétique, la Terre en état, avec deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Là, il faut essayer d'imaginer quelque chose avec trois pôles. Voilà, trois pôles. Le social étant un pôle spécifique, qu'il faut penser par conséquent séparément. Pas comme quelque chose qui est entre auxquels peuvent plus ou moins participer des instances privées, des instances publiques. Non, il faut essayer de le penser comme quelque chose qui transcende, qui est un pôle spécifique par rapport à ces pôles-là. Alors, je vais tirer de cette allusion, probablement un peu compliquée, au concept du trans-individuel simondonien, une remarque et une question, et cette fois, je vous assure, j'arrêterai mon discours pour ce soir, mais après, bien entendu, j'espère qu'on va discuter. Donc, je conclue, si vous voulez, en m'appuyant sur ce que je viens de dire, par une remarque, et pour vraiment finir, une question. Pour finir pour ce soir, une question. Alors, la remarque, la voici, elle tient à ceci que si c'est en apparence, le même individu qui passe et se déplace d'un champ à l'autre, du champ privé au champ public, par exemple, on peut dire apparemment c'est ça, c'est moi qui sors de chez moi qui me rends sur la place publique. Apparemment, c'est donc le même individu, moi ou vous, qui passe et se déplace d'un champ à l'autre. Ce n'est pourtant pas le même niveau ni la même sorte de subjectivité qui se tient ici ou là. Ce n'est pas le même sujet, c'est peut-être le même corps individuel qui je suis chez moi et je vais dans un lieu social. C'est mon corps qui se retrouve une fois chez moi, une fois là-bas dans un milieu social. Oui, mais ce n'est pas la même subjectivité. C'est ça que m'a permis de dire le passage par la distinction chez Simondon entre l'inter-individuel et le trans. Entre l'inter et le trans. Donc moi, je la traduis dans un vocabulaire qui n'est pas celui de Simondon, qui est le mien, mais en vous faisant cette proposition. En apparence, c'est le même individu qui se déplace d'un champ à un autre, d'un pôle à un autre, mais ce n'est pas la même subjectivité, la même sorte de subjectivité qui se tient ici ou là. Cette subjectivité, elle est plus ou moins relative et elle peut être diversement subjectivée. La subjectivité nous concerne chacun d'entre nous diversement. Je vais donner un exemple pour clarifier dans une seconde. Je peux envisager que ce qui me définit comme sujet dans la vie privée ou ce qui me donne une place dans cette vie privée. Alors, par exemple, je peux me définir comme sujet amant ou comme sujet amante ou comme père ou comme mère, comme sujet père ou comme sujet mère ou comme sujet enfant. Enfin, je veux dire, dans la vie privée, on va trouver des sujets qui peuvent être amante, amant, père, mère, enfant, etc., qui sont des places. Hein. J'occupe la place dans la vie privée, j'occupe la place du père, j'occupe la place de la mère, j'occupe la place de l'amant, j'occupe la place de l'amante, j'occupe la place de l'enfant. Je peux imaginer donc que ce qui me définit comme sujet dans la vie privée, que ce qui me donne une place dans cette vie privée, ne servent guère à me situer dans la vie sociale. C'est-à-dire, quand je traverse une rue, tout le monde se fiche de savoir si je suis amant ou amante, père ou mère, enfant, etc. C'est pas la question. C'est donc le même corps qui est concerné, mais c'est pas la même subjectivité. C'est ça que je veux essayer d'expliquer pour ce soir. Ce qui me définit comme sujet ou ce qui me donne une place dans la vie privée ne sert guère à me situer ou à me qualifier dans une vie sociale, dans cette vie sociale où je peux me trouver participant anonyme ou quelconque d'opérations décidées au-delà ou indépendamment de ma personne. Ça, c'est peut-être une caractéristique de l'expérience sociale, c'est que je me trouve... Il se trouve que je suis subjectivé. Je me trouve concerné par des opérations qui ont été décidées indépendamment de ma personne. Je suis pour ces opérations a priori un sujet quelconque et pas un père, une mère, un enfant, etc. etc. Donc, dans le champ social, définition d'être privé sont impertinentes. Je suis là, elles ne servent pas, elles ne permettent pas de me situer dans la vie sociale où je me trouve, participant plus anonyme ou quelconque, d'opérations décidées au-delà ou indépendamment de ma personne. Je peux le dire autrement. C'est décidé au-delà ou indépendamment de ma personne, sans tenir compte donc de ce qui peut me qualifier personnellement. Les opérations sociales peuvent parfaitement être décidées sans qu'il soit tenu compte de ce qui me qualifie personnellement en tant que personne, par exemple comme personne privée. Bien entendu, c'est le caractère du social, ça. Peut-être pour commencer. Je peux dire ça autrement. Le mode de l'autorité ou de l'autorisation n'est pas de même ordre suivant qu'on est dans le registre privé ou dans le registre social ou dans le registre public. Le mode de l'autorité ou de l'autorisation. Alors, il y a un petit jeu de mots qui fait que je n'oublie pas complètement Hannah Arendt quand je dis tout ça. Je pense que autorité, ça renvoie au mot auteur. Être l'auteur d'un propos, c'est être une autorité. Voilà. Donc je pourrais dire ça peut-être. Je ne suis pas pareillement auteur de ce qui me concerne lorsque je suis chez moi, vie privée, ou dans un lieu social, ou dans un lieu public. L'autorité et l'autorisation, peut-être il y a des endroits où il faut que je sois autorisé. Et peut-être il y a des endroits où je peux m'autoriser tout seul. Alors, je pense que dans la vie privée, enfin, je ne sais pas, il faut discuter. Hein. Mais en tout cas, s'il y a ces trois pôles, privé, public, social, d'une certaine manière, ça veut dire que nous n'y sommes pas sujets ni subjectivés de la même manière. Nous n'y sommes pas auteurs au même titre ou au même degré. Le mode de l'autorité et de l'autorisation n'est pas de même ordre dans les trois instances. Donc ça, c'était ma remarque pour conclure. Et pour vraiment conclure, la question que j'ai annoncée il y a quelques minutes. Donc, cette question que je pose ce soir et dont nous suivrons le cours évidemment par la suite, cette question, elle vise à savoir ce qui peut se développer de relations dans le social qui ne se développent pas ailleurs. Qu'est-ce qui peut donc se développer spécifiquement dans le social qu'est-ce que c'est que cette subjectivation spécifique au social qui n'est pas dans le registre privé ni dans le registre public. C'est ça la question. Qu'est-ce qui peut se développer de relations dans le social qui ne se développent pas ailleurs? Si l'autre dans l'espace public est mon égal, que nous sommes également citoyens, etc. Si l'autre dans l'espace public est mon égal, et si dans l'espace privé l'autre, en général, c'est mon proche. On avait vu ça l'année dernière. Qu'est-il, cet autre, dans le social? Quel est le caractère de l'autre pour moi dans l'espace social? Étant donné que ni lui ni moi ne sommes pareillement sujets que nous sommes quand nous sommes dans une relation privée ou dans une relation publique ou politique. Eh bien, je dirais, c'est ma proposition globale, positive cette fois, l'autre, dans le champ social, il est mon voisin. Dans le champ privé, c'est mon proche. Dans le champ politique, c'est mon égal. Et dans le champ social, c'est mon voisin. Et donc, c'est celui ou celle, bien sûr, c'est l'être à côté de qui je peux être. Je pense que c'est ça, pour moi, la couleur propre du social, c'est que c'est un endroit dans lequel je peux être à côté d'un autre, sans être son proche et sans être son égal. Et donc, il nous faut penser positivement ce que c'est qu'être voisins les uns des autres, ce que c'est qu'être voisiné. C'est pour moi la tâche du séminaire cette année. Et par conséquent, je vous annonce, et je m'arrête là-dessus pour ce soir, la séance de la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon, c'est de l'expérience du voisinage, je dirais du côtoiement. La société, c'est un endroit dans lequel on peut côtoyer les autres, qui autorise le côtoiement. Et même peut-être, ouais, bon, je reviendrai sur les nuances ultérieurement. C'est donc de cette expérience, le voisinage, peut-être je préférerais dire le côtoiement, que je vais chercher, si vous voulez, donc je vais chercher par la suite, à partir de dans 15 jours, la positivité. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif à se côtoyer les uns les autres? Voilà, en gros, pour introduire la séance de le séminaire de cette année, je pense que peut-être, dans la circonstance où on est, c'est-à-dire la relation via la vidéoconférence, je peux m'arrêter là, c'est assez pour ce soir, et il faut que nous discutions maintenant. Je ne suis pas pressé, j'ai tout le temps.
Merci Pierre-Damien. Est-ce qu'il y a des questions? On peut lever virtuellement la main sur Zoom ou prendre directement la parole hein, si personne ne l'a. Je crois que ça se passe dans les réactions, le lever de main, c'est-à-dire en bas de l'écran. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou poser une question?
C'est encore plus dur comme ça que quand c'est en direct.
Oui. Alors moi, j'ai peut-être une question, Pierre-Damien.
Oui.
Je voulais te demander où est-ce que tu situes le commerce
l'année prochaine.
D'accord.
Non, vas-y.
Ah ben non, mais là voilà, c'était la question. Enfin, je me disais peut-être dans le social. Peut-être dans le social, jusqu'à ce que tu parles d'être voisin et du voisinage. Donc c'est pas la même chose que la relation marchande. Dans le langage courant, on situe le commerce du côté du privé, enfin le secteur privé, l'espace privé, mais là ça n'a pas du tout le même sens que dans ton vocabulaire. Toi, alors je me dis peut-être qu'il est plutôt du côté du social et là je m'aperçois que non, donc il y a en fait un quatrième pôle effectivement qui sera étudié plus tard.
Non, ça sera pas un quatrième point. C'est une boutade, hein, comme j'ai dit l'année prochaine. Hein. Alors, je pense que ta remarque n'est pas tout à fait une question, mais une remarque. Je m'aperçois qu'il faut que je fasse peut-être une précision de vocabulaire pour commencer. Mais après, je vais quand même répondre un peu mieux à ce que tu me dis. Enfin, je vais essayer de répondre un peu mieux. Alors, la précision de vocabulaire, c'est que j'ai pris les mots depuis l'année dernière et là encore, et ça continuera, j'ai pris les mots privé-public au sens que j'ai trouvé pour ces mots dans le texte qui a lancé toute cette réflexion, qui est un texte d'Anna Arendt. Quand elle dit espace privé, elle veut dire la maison, le, 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 l'endroit où on se replie pour vivre avec les siens ou avec soi-même, où on prend ses repas entre soi, etc., où on dort. Enfin, on a toute une série d'activités que la décence m'interdit de nommer de façon précise. C'est ça qu'elle veut dire quand elle dit privé, et c'est ça que je dis dans une séance comme ce soir quand j'utilise ce mot privé. Toi, dans une partie de ce que tu dis, tu prends le mot au sens hérité davantage peut-être des Lumières. On parle du droit des sociétés privées ou des sociétés de droit privé. Mais il y aurait les sociétés de droit privé, puis ce qui relèverait du droit public, par exemple, etc. Sociétés de droit privé, c'est quand même des sociétés. Donc moi, je mets ça dans le social. Voilà. Si je renvoie au vocabulaire que j'avais commencé, je crois, à mettre en place l'année dernière, sur lequel je reviendrai, alors ça, probablement plus l'année prochaine, c'est vrai, c'est ce que j'ai trouvé chez Aristote quand je le regarde précisément le début de la politique, quand il lâche le mot non pas oikos mais perioikos. On pourrait dire le perioikos, c'est là où les Grecs allaient faire leurs courses. Enfin, tout ce qui se passe dans le pourtour que nous appelons aujourd'hui, justement, c'est là où on commerce, etc. Voilà. Donc on n'est pas dans l'espace public. S'il y a un droit ou s'il y a des formes de droit dans ce genre de zone, ça n'est pas ce qui prévaut dans la partie publique de l'espace, ni ce qui ordonne, si j'ose dire, les relations dans la partie privée au sens d'un arène de la vie particulière. Alors, en ce qui concerne le commerce, moi, je rappelle souvent, je suis clair dans ce que je viens de dire.
Oui.
Ouais. En ce qui concerne le commerce, hein, je rappelle souvent que, en fait, il y a un vieux sens du mot commercer, mais commercer avec quelqu'un au sens encore assez présent, je crois, au XVIIIe siècle, ça ne veut pas dire avoir des échanges monétaires à propos de quelque chose que l'un vendrait, que l'autre achèterait. C'est avoir commerce avec quelqu'un, c'est se rendre sur une place et le rencontrer, parler avec lui, parler avec elle, etc. Voilà. Mais de toute façon, on peut dire que monétarisé ou pas, le commerce suppose une rencontre. Voilà. On va parler de tout ça petit à petit précisément, c'est-à-dire la rencontre, j'en parlerai la prochaine fois, ça c'est sûr. Rencontrer quelqu'un, c'est peut-être vraiment regarder cette personne dans les yeux. Voilà. Alors, est-ce que dans une transaction commerciale, on peut se regarder dans les yeux ? C'est-à-dire, dans quelle mesure c'est un commerce ? Dans quelle mesure c'est un voisinage ? Dans quelle mesure c'est une rencontre ? Tout ça, c'est pas si simple qu'on pourrait croire. En tout cas, si on essaye de réfléchir à un petit peu. Un peu philosophiquement, disons, à ces questions-là. Je propose, en fait, ce que je vais faire, ce que j'ai déjà commencé à faire ce soir, mais je pense que ça sera plus net la semaine prochaine, c'est de ne pas penser le social à partir de ce qu'on nous propose avec suffisance du social, ou avec orgueil, etc., pour reprendre mes mots de ce soir, ne pas penser le social d'abord comme étant, c'est ce que fait Marc Auger. C'est pour ça qu'il est si peut-être si mal avec le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il essaye de penser le social d'abord à partir de la rencontre, c'est-à-dire du fait qu'on irait en société pour se rencontrer les uns les autres, ou que la société serait faite pour qu'on se rencontre les uns les autres. Eh bien moi, je vais soutenir une thèse paradoxale que j'ai commencé, dont j'ai préparé la soutenance ce soir, qui consistera à dire que le social n'est pas fait pour qu'on se rencontre, il est fait pour qu'on se côtoie. Il est fait pour qu'on puisse passer les uns à côté des autres. Voilà. Et je sais que c'est une thèse paradoxale, mais je voudrais montrer, j'espère que j'ai commencé à laisser entendre ça, que ce pouvoir passer les uns à côté des autres, c'est une qualité du social, c'est une qualité positive du social, et que peut-être, justement, quand une société, quand un endroit social va mal, nous met dans le malaise, c'est parce qu'on ne peut pas côtoyer ceux qui, pour certains d'entre eux, mais seulement quelques-uns, très très peu, seront nos partenaires de la vie privée, et pour d'autres, nos égaux dans l'espace public, mais l'espace public n'est pas voué à ce que nous nous rencontrions, l'espace public au sens d'Arendt, celui qu'on voyait, qu'on étudiait l'année dernière, n'est pas fait pour qu'on se rencontre. Donc voilà, le chemin vers lequel je vous emmène, si vous voulez bien venir avec moi, c'est d'essayer de penser le social comme étant d'abord ouvert à des voisinages et non pas à des rencontres. Et que c'est ça, je pense que c'est penser ça qui nous permet de ne pas vivre avec un social imposant. Je ne sais pas si je suis clair.
Si, merci. Ok.
Évidemment, pour les amis designers que vous êtes, ou ceux d'entre vous que ces questions intéressent, ou les architectes, etc., il y a bien des déductions à faire. Enfin, il y a des conséquences énormes à ce que je viens de dire. C'est que, par exemple, ménager, je ne dis pas aménager, hein, je fais exprès de ne pas dire aménager. Mais ménager un lieu social en espace, faire d'un lieu social un espace social, au sens que j'essaie de soutenir avec ce mot d'espace, ménager un espace social, ça n'est pas organiser, ménager des rencontres. Voilà. C'est peut-être, paradoxalement, ménager des passages. Donc ça, je reviendrai là-dessus, c'est promis. Ça ne veut pas dire que je pense la rencontre comme quelque chose de secondaire. Je pense les rencontres comme pas du tout secondaires. Mais je pense que le lieu des rencontres, en fait, quand on rencontre quelqu'un, peut-être que la rencontre se produit dans ce qu'on appelle un lieu social, mais si c'est une rencontre, elle va se retirer du champ social. Les personnes qui se sont rencontrées vont avoir une histoire personnelle entre elles, qui n'est pas une histoire sociale, qui est une histoire personnelle. C'est pour ça que j'ai dit au passage ce soir, justement, ce ne sont pas des personnes qui existent comme telles dans un espace social. C'était le passage compliqué où je parlais de Simon Long. Les processus du collectif, la nature du collectif, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre à partir, justement, d'individus qui se rencontreraient. C'est de l'ordre du trans et pas de l'inter.
Donc, se côtoyer, ça se rapporte exclusivement à la circulation, en fait.
Alors, quelqu'un a parlé, mais j'ai manqué le début, du coup.
Non, je dis quand tu parles de se côtoyer, puisque je m'interrogeais sur ce mot, tu as apporté un complément. Et je disais, du coup, en fait, dans ce que tu dis, c'est que cette histoire de côtoiement, ça se rapporte, en fait, exclusivement à la circulation et à cette histoire de passage.
Se rapporte exclusivement à...
Alors, à l'idée de circulation les uns avec les autres, donc côtoyer, ce serait vraiment ça, du coup, sur l'idée de passage.
Eh ben, ce que tu dis, c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on interroge. Moi, j'aurais des réserves sur le mot circulation. Parce que circuler, c'est littéralement, ça veut dire tourner en rond. Okay. Et donc, faire des cercles. Hein. Et donc pour caricaturer, je dirais le périphérique. C'est pas un endroit dans lequel se manifeste l'excellence du social. Voilà. Donc, j'essaierai de parler sans cette métaphore de la circulation qui, est, en effet, m'est venue évidemment à l'esprit. Mais dans l'idée, je pense qu'on est d'accord. Voilà, je vais essayer et je pense que c'est la clé pour penser positivement le social, comme j'essayais de dire ce soir. Donc, de dire en fait finalement, peut-être le meilleur mot, c'est passage. Passage. Pas forcément en cercle.
Oui, tu parlais
je dirais la prochaine fois même des je montrerai à l'aide d'une référence cinématographique des passages en tous sens. Donc, qu'un endroit, comment dire, vivement social, pas lourdement social, mais vivement social, c'est un endroit dans lequel on peut passer dans tous les sens.
Bonsoir, je me permets de rebondir sur la notion de passage et de circulation. Et en fait, je m'interroge, est-ce que vous conceptualisez la notion du coup, de social uniquement dans une logique dynamique de mouvance, ou qu'est-ce qu'on fait du statisme et, derrière la rencontre, il y a cette notion aussi de figer, d'avoir un instant, un moment, que ce soit dans une dimension spatiale ou temporelle. Je m'interrogeais sur la manière dont vous pensez le mouvement en opposition peut-être au statisme dans la notion de social.
Alors, j'aurais besoin d'une reformulation. Alors, je ne sais pas si vous pouvez brancher votre caméra, je crois que ça m'aiderait en fait à vous entendre. Il y a une partie de votre discours, une question que je n'ai pas pu entendre. Est-ce que vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît?
Oui, je mets pas la caméra parce que j'ai une mauvaise connexion, donc vous m'entendez mieux, je pense. Je disais, vous parlez de passage plutôt que de rencontre, la circulation qui vient d'être évoquée. Et est-ce que moi, comment je perçois la notion sociale, donc c'est dans une dynamique de mouvement. Et je me demandais comment vous pensez. Mais peut-être que du coup, ces mots ne vous évoquent pas grand-chose. Enfin, ne font pas écho à ce que vous mettez derrière social. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et pour moi, derrière la notion de rencontre, il y a aussi une notion de fixité dans le lieu, dans le. Que je perçois le passage, et je me demandais du coup, qu'est-ce que vous mettez derrière cette fixité?
Qu'est-ce que je mets derrière la société?
Qu'est-ce que vous. Non, la fixité, enfin la notion de fixité en opposition à la notion de mouvement. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose chez d'autres participants, mais.
Qu'est-ce qui est opposé à la notion de mouvement? Est-ce que quelqu'un fixité. A une bonne réception
fixité,
je
Père Damien.
Oui.
Fixité. Fixité, fixe, ouais, fixe, fixité, statique, dynamique, mouvement dynamique qu'Elisa oppose à statique.
En fait, il aurait fallu que je fasse tout de suite la deuxième séance, en fait. Alors, qu'est-ce que je dirais que. Je dirais que. Probablement, ce vers quoi je vais, c'est de vous proposer d'associer la notion de société à celle de, alors je veux dire mobilité, le mot a tellement été galvaudé il n'y a pas très longtemps que j'hésite à le reprendre, mais enfin, à quelque chose, donc c'est l'ordre du mouvement, bien entendu, mais justement, il faudra peut-être qu'après qu'on distingue, il y a toutes sortes de mouvements. Par exemple, ça je sais déjà que j'avais l'intention d'en parler la prochaine fois, un défilé des gens qui sont organisés et qui défilent ensemble, ben, ils sont en mouvement, etc. Mais c'est pas le même mouvement que si on a affaire à ce que j'appellerais une foule alerte, où les gens vont et viennent dans tous les sens, d'arrière en avant, d'avant en arrière, de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Circulation, c'est encore une autre façon d'organiser le mouvement. Alors peut-être que, je ne sais pas comment dire ça, un endroit me semblera, je crois, d'autant plus social que la mobilité y est possible sans qu'elle soit guidée. Organisée extérieurement à elle-même. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair et je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à entendre le son.
Dès lors qu'on s'arrête dans un espace, Pierre Damien, selon toi, dès lors qu'on s'arrête, on sort du registre social.
Ce qui va être difficile, c'est que en fait, je vais travailler des toutes petites choses comme celles que je vais relever à l'instant. Dès lors qu'on s'arrête, c'est pas la même chose que dès lors qu'on est arrêté. Mmh. Et c'est ça la question. Enfin, en tout cas pour moi, c'est une grande partie de la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'organisation, ce qui est organisé dans ce qu'on appelle le social, qui nous arrête? Donc, par exemple, un péage d'autoroute, ça nous arrête, ça m'arrête. Voilà. Alors, c'est social ou c'est pas social? Ça améliore le bien-être social ou pas? Voilà. Donc, c'est pas la même chose. C'est pour ça que j'ai parlé comme j'ai pu. Naturellement, c'était très abstrait. Je sais bien, c'était sûrement très compliqué, trop complexe, là, mais quand même, je pense que ça reviendra si vous voulez bien. Ça va nous travailler, quoi. La différence entre ce que j'essayais de dire en m'appuyant sur Simondon, c'était peut-être pas la façon d'être le plus clair, mais c'est comme ça que ça m'est venu. Bon, donc je l'ai dit, mais le fait que les registres de subjectivité sont pas les mêmes, voilà. Et que dans le social, il y a toujours quelque chose qui est organisé pour moi, pas par moi. Alors peut-être que si je m'arrête, je suis en train de faire une expérience qui relève en réalité de l'instance privée. Je m'arrête. Je suis l'auteur de mon arrêt. Mais il y a des situations, et je pense que ce sont les situations sociales par excellence, dans lesquelles l'organisation de ce qui peut s'y passer, ce ne sont pas les personnes en tant que telles qui en sont les organisatrices, elles en sont plutôt tributaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lieu social par excellence?
L'expérience
de l'arrêt, d'abord, ce n'est pas la même si je suis arrêté et si je m'arrête. Bon, je l'ai dit déjà, mais je veux dire, même si... Si je m'arrête parce que je suis saisi par une beauté. Voilà. Je suis arrêté par une beauté. Et je suis arrêté par un péage. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, il va falloir qu'on parle de tout ça. Qu'est-ce qui nous arrête dans une société? Qu'est-ce qui nous laisse passer? Etc. etc. Voilà, c'est ces questions-là que j'ai en tête.
Pierre Damien, j'ai une autre, j'ai peut-être même plusieurs questions, toujours dans ce sens d'essayer de penser peut-être un triptyque avec privé, public, social. Et la première, ce serait, est-ce qu'il y a un propriétaire du lieu social, comme peut-être il peut y avoir justement un propriétaire de l'espace privé ou des propriétaires de l'espace public? Déjà, je pensais à cette question. Est-ce qu'il y a un propriétaire de l'espace public? Et s'il y en a un, à qui appartient le lieu social?
Je peux prendre mes questions une par une, même si tu en as plusieurs. Ouais. Alors, c'est bien que tu me poses cette question parce que ça veut dire qu'il faut que je précise quelque chose. En droit, je suis pas complètement hors du monde réel. Je sais bien que existe la notion de propriété publique, propriété privée, etc. Mais conceptuellement, sur les bases, les assises conceptuelles, qui sont celles de tout ce séminaire que j'ai dit l'année dernière, ça commence à partir d'un texte d'Anna Arendt, etc. Et après, je change pas de langage en cours de route. J'essaye de le comprendre le plus loin que je peux. Je dirais que ce que je comprends dans cette logique-là de penser qu'est un espace public, la meilleure définition que j'en aurais, c'est de dire est public un espace, non pas qui appartient à tous, comme on me l'a dit souvent, mais un espace qui n'appartient à personne. Autrement dit, est public un espace dans lequel toute propriété privée est suspendue. Même l'État n'est pas propriétaire de l'espace public. Un espace qui serait profondément public. C'est pour ça que je pense que profondément, c'est un espace vide. C'est vide de toute marque, de toute signature, de toute marque d'appropriation, quelle qu'elle soit. Donc, l'idée, c'est une idée. Peut-être qu'il n'existe aucun espace débarrassé de la propriété. L'espace public, c'est même pas une propriété collective. Ça serait un endroit préservé de la propriété, c'est-à-dire dans lequel personne ne peut dire, je reprends une phrase sur laquelle Rousseau a médité, « ceci est à moi », ou même « ceci est à nous ». Donc l'instance du public, ça exclut, je crois, la notion de propriété. Alors après, est-ce qu'on est propriétaire, enfin, est-ce que dans la partie privée de l'espace, on a affaire à des propriétés, ou en quel sens, etc. Je dirais, est-ce qu'on a besoin, dans l'idéal de l'espace privé, d'une garantie juridique, c'est-à-dire si je suis chez moi avec mes proches, ceux que j'appelle mes proches, pas mes voisins, pas mes semblables, mes proches, avec qui j'ai plutôt des relations d'amour, voilà, pour dire les choses simplement, est-ce que j'ai besoin qu'intervienne une notion de droit de la propriété? Non. Le respect que nous nous portons les uns aux autres, par définition, là, exclut qu'on ait besoin de signes de propriété, d'appropriation. Enfin, il n'y a pas besoin que ce soit notarié. Là aussi, dans l'idéal. Si ce n'est pas comme ça, c'est parce qu'en réalité, par exemple, c'était une question discutée dans la philosophie entre Kant et Hegel. Par exemple, faut-il des contrats de mariage? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est l'intrusion du droit dans la sphère privée. Hegel disait, il n'en faut pas. Et je pense que, du point de vue de l'idéal de la notion, il avait probablement raison. C'est-à-dire que le contrat, c'est l'introduction d'une logique sociale dans une relation privée, au sens d'une relation de personne à personne, une relation personnelle. Donc, ma réponse longue à ta question, c'est de dire finalement, il y a chance ou risque, comme on voudra, on verra ça petit à petit, que la relation, la notion de propriété, si elle a une pertinence, ou si elle a une pertinence qui, à mon avis, qu'il faut peut-être relativiser, en tout cas, si elle a une pertinence, la notion de propriété, ça sera probablement dans l'espace social. Alors ça ne règle pas la question de savoir si cette propriété est personnelle ou collective. Ça va être compliqué. Évidemment, le sujet est très compliqué. Est-ce que j'ai à peu près répondu?
Oui, bien sûr. Il reste encore à discuter, du coup, effectivement, parce que on peut pas penser... Enfin, on peut penser aussi aux réseaux sociaux. Enfin, il y a cette idée en fond dans ma question aussi. Dans les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas plutôt des réseaux privés ou privatisés ou,
Je note, si tu veux, je note cette question-là. En fait, ma réponse a brûle pour point, mais je l'avais pas. Elle n'est pas d'entrée dans mes notes de travail pour les séances pour la prochaine. Mais peut-être qu'il faudra que j'y fasse une place. Mais pour répondre très rapidement, je dirais, c'est pour moi quand même, je suis toujours pas revenu de cette appellation réseau social. Et pour moi, c'est une appellation louche. C'est un réseau, il n'y a pas besoin d'ajouter social. Ou si c'est social, il n'y a pas besoin de dire réseau. Qu'est-ce que ça vient faire? Il y a un mot de trop. Et dans ces cas-là, il y a quelque chose de pas net, quoi. Voilà. Donc, évidemment, je ne peux pas me passer de cette expression réseau social parce qu'aujourd'hui, elle est tellement répandue, etc. Mais justement, qu'est-ce que ça dit de la société, de l'idée qu'on se fait de la société? Peut-être, qu'est-ce que ça dit de ce que j'ai appelé ce soir la suffisance sociale? Ou, autre manière de dire la même notion, de la façon qu'a le social de s'imposer excessivement. Qu'est-ce que ça dit de ça, le fait que nous acceptions aujourd'hui une expression, un syntagme comme celui-là, réseau social.
Non, non, je n'ai pas d'autres questions, merci.
C'est des questions, je ne vais pas oublier ça, mais je réfléchis à voix haute, hein, j'ai pas de, mais je pense que c'est des questions qu'il faudrait qu'on se pose. Peut-être on pourra le faire un peu plus précisément à partir de la prochaine séance, c'est-à-dire déjà j'introduis un vocabulaire, c'est un vocabulaire simple, le vocabulaire est très simple. En revanche, les notions et les questions que ce vocabulaire simple de trimballe sont elles certainement assez complexes. Mais dans quelle mesure, quand on est en communication sur ce qu'on appelle un réseau social, dans quelle mesure on est voisin et dans quelle mesure on se rencontre? Voilà, ça c'est une question. Une question que je pourrais poser avec mon langage bientôt. Ou qu'est-ce qu'on rencontre si on rencontre? J'ai un petit peu dit des choses quand même, il me semble, enfin j'espère. Quel est le sujet qu'on rencontre sur un réseau social? Quel est le niveau de subjectivité qu'on rencontre si on rencontre quelqu'un dans un réseau social? Évidemment, ce n'est pas une rencontre de même caractère qu'une rencontre amoureuse donnant lieu à la construction d'une vie privée. Voilà. Ou alors, ça va être une rencontre amoureuse, mais à ce moment-là, ça quitte le réseau social, il me semble.
A priori, on est tous des amis. Hein.
Comment?
A priori, on est tous des amis sur les réseaux sociaux.
Oui.
Camille, est-ce que tu as envie de poser une question? Je te voyais parler, mais je ne t'entends pas du tout. On t'entend pas, je crois. Alors là, pour moi, j'ai ton micro qui est coupé.
Non. C'est pas grave. Si, c'est grave. Est-ce que tu peux la poser par écrit?
Ah, il y a quelqu'un qui demande, qui lève la main, oui. Je crois. Non
oui.
Je vais essayer de remettre ma vidéo pour que vous me voyez un peu. Bonjour. Ah, désolé, alors, par contre, il fait hyper sombre. Alors, du coup, je ne sais pas si ça change quelque chose que je mette là.
Ah, si, ça change.
Oui. Ça change, bon. bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, moi, je suis nouvelle au séminaire, donc je n'ai pas tout le bagage passé. Et je voulais peut-être... En fait, il y a juste un point qui m'a titillé, et du coup, c'était juste si vous pouviez revenir dessus. C'est quand vous parliez des rôles, et du coup, ce fait d'avoir dans... En gros, que dans chaque espace, on a des subjectivités qui sont différentes. Et en fait, ce que je me faisais comme réflexion, c'est est-ce qu'on ne peut pas plutôt penser, au contraire, qu'il y a plutôt un empilement des subjectivités, et qu'en fait, quand je viens dans mon espace... privé et chez moi, je peux pas non plus totalement enlever ma casquette et mon rôle de, je sais pas, du travail que je fais dehors, ou comme en fait quand je vais dans la rue, bah si je suis une mère de famille, j'arrive avec ma poussette. En fait, si je, en fait, si je prends le rôle, mon rôle privé et je l'amène dans, enfin dans un autre espace. Et du coup, c'était voilà, c'était plutôt une question de comment vous pensez ces, justement ce croisement ou cet empilement. Où on parle aussi d'intersection dans d'autres, voilà, de tous ces rôles et du coup de comment penser ces rôles dans les espaces avec ça. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte.
C'est clair. Je vais essayer de vous répondre bien sûr, mais avant, j'ai une petite curiosité parce que il me semble que vous avez dit plusieurs fois rôle et je ne pense pas avoir prononcé ce mot.
Et vous avez dit sujet.
Oui, voilà. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui vous a fait penser à rôle dans ce que j'ai dit.
Ah, bah parce que quand vous parliez de sujet père, par exemple, ou sujet mère, là, moi, ça m'a vraiment fait penser à, en sociologie, quand on dit, bah, il y a le rôle, enfin, voilà, il y a les rôles que vous pouvez avoir dans la sphère privée, et typiquement, être père ou être mère, c'est un rôle social que vous avez, mais qui peut s'ajouter avec d'autres.
Mais c'est peut-être pour ça que je suis pas sociologue, si vous voulez. C'est-à-dire que justement, je crois que ça date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est un vieux problème chez moi, une difficulté avec cette notion de rôle. C'est-à-dire peut-être qu'elle est pertinente, par exemple. Peut-être. Hein, je n'affirme rien. Mais, Je peux faire l'hypothèse, peut-être, que, par exemple, dans la société, on doit tenir des rôles. Peut-être que je vois un texte d'Anna Arendt dans lequel elle dirait, au fond, dans ce cas-là, elle, un espace public, on ne peut pas y exister. Comment on ne peut pas y exister de la même manière que dans l'oïkos familial? Qu'il faut tenir bon face aux argumentations adverses. On est des adversaires, pas des ennemis, mais des adversaires dans l'espace public. Il faut, elle le dit ça, qu'on puisse exister en tant que persona, au sens étymologique du mot, c'est-à-dire le masque de l'acteur, c'est-à-dire que ce que me dit mon adversaire politique dans l'espace public, ça ne me touche pas au profond de mon être privé. Hein, sans quoi c'est le totalitarisme, la politique bouffe tout, etc. Et donc, on pourrait admettre que nous existions un peu comme des acteurs, persona en latin, hein, quand nous sommes dans un espace public. Pour le social, j'en sais rien, puisque je ne fais que commencer à étudier le social. Je ne sais pas en tant que quoi nous existons. Mais peut-être ce que je peux vous dire pour essayer de répondre à votre remarque, c'est que si vous tenez, ou si le sociologue peut-être tienne à la notion de rôle, c'est que ça permet quand même de sauver, dans une certaine mesure, la constance du sujet. La constance, c'est-à-dire le fait qu'il se tienne, stance, hein, constamment comme sujet, jouant des rôles. Alors, j'aurais j'ai beaucoup de mal à penser que, par exemple, père ou mère ou enfant, ça soit un rôle. Je pense que c'est un être. C'est-à-dire que je suis pas en train de jouer. Je suis à la place du père, je suis à la place de la mère, je suis à la place de l'enfant. Je dis pas que occuper ces places, ça soit facile. Aucune de ces places n'est une place absolue. Je vais sortir un livre prochainement sur ces questions-là, la mixité des personnes et des choses comme ça. Je ne dirais pas que nous soyons des acteurs. Je pense qu'il y a une confusion beaucoup dans le langage d'aujourd'hui entre être actif et être acteur. Voilà. Je suis pas forcément acteur quand j'agis. Voilà. J'agis. Je me mets dans l'action. Voilà. J'y suis. Et donc, je ne suis pas avec quelque chose de moi qui reste peut-être inengagé dans une certaine mesure. Voilà, voilà ce que je vous répondrais, c'est-à-dire C'est pour ça que j'ai mis, c'était ça là-dessus que portait votre question. C'est pour ça que je sais, c'était difficile. Je pense que c'était pas clair. Des mots comme ça, similaire, on peut aussi un peu y aller petit à petit. De dire, c'est pas le même niveau de subjectivité dans ce qu'on pourrait spécifiquement appeler social ou ce qu'on pourrait appeler privé. C'est pas le même niveau de subjectivité. Ce sont peut-être des ou de subjectivation. Peut-être que ce sont des sujets ou des subjectivations plus collectives ou de groupe. Elles sont plus anonymes, etc. Dans le social. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu.
Merci pour le moment, ça ira. Je pense que de toute façon, on creusera dans les autres séances. Ouais. Merci.
Si vous voulez bien désactiver votre micro quand vous n'êtes pas en train de parler, parce que parfois on a des bruits parasites. On a donc la question de Camille par écrit. Je vais peut-être la lire pour tout le monde. Je me demandais si vous envisagez. En fait, on n'arrive pas à l'entendre. Il y a visiblement un problème avec le micro.
Ah oui, elle est là. Oui, elle est...
Ah oui. Tu l'as ? Je me demandais si vous envisagiez de situer géographiquement, culturellement, la corrélation entre l'espace social et la notion de passage, qui exclut de l'espace social la possibilité de la rencontre. Et une précision
question. Géographiquement,
j'envisage de la situer géographiquement, la corrélation espace social et notion de passage. Est-ce que ça se traduit, j'imagine, dans des localités particulières que tu comptes étudier. Et puis précision de la question, je la donne au passage. D'une culture à l'autre, l'équation espace public social privé varie certainement, ne se pose pas de façon équivalente. Alors est-ce que un espace social c'est la même chose d'une culture à l'autre?
C'est plus facile pour moi de répondre à partir de la fin. De la remarque ou de la question, parce que je comprends quelque chose. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut que je comprenne, mais alors est-ce que c'est la même chose? L'année dernière, je crois que j'avais dit, enfin, alors si je ne l'ai pas dit, j'ai eu tort de ne pas le dire, en tout cas, je le dis maintenant, tout ça, c'est une réflexion dont je ne propose pas a priori de dire, sûrement pas, a priori de dire qu'elle est universelle. Je pense que mon travail, ma démarche, c'est de dire qu'est-ce que je peux penser et qu'est-ce que je peux dire qui pourrait nous intéresser, je parle exprès en décomposant le mot, aujourd'hui, alors intéresser, si je traduis, là, c'est y être, quoi. Nous y sommes à ça. Qu'est-ce que nous pouvons dire qui nous intéresse aujourd'hui à partir de sources de pensée qui ne sont pas universelles, je le sais, mais qui sont les seules avec lesquelles moi je peux travailler parce que c'est celles que je connais un petit peu et qui sont les sources grecques de la philosophie relues périodiquement, par exemple relues par Hannah Arendt dans les années 50 du XXe siècle. Elle relit ces sources-là. Moi, je les relis, elle les relisant. Du coup, je les relis à mon tour, etc. Ce sont des sources de pensée à partir desquelles je peux essayer de dire quelque chose d'un peu cultivé. Et c'est-à-dire, j'entends par cultivé qui a pris un peu de recul sur ce qui se passe aujourd'hui, qui du coup peut le regarder de loin, mais quand même. Dire quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui, ouais. Mais ça n'est absolument pas universel. Je ne pose pas a priori l'universalité de mon propos, si c'est ça que veut dire votre question sur la géographie et la localisation. Après, si cette question sur la localisation veut dire est-ce que je pourrais donner des exemples d'espace social qui n'a pas de suffisance et qui ne s'impose pas et qui cependant est alerte, vif, etc., c'est-à-dire dans lesquels on peut se côtoyer, passer les uns côté des autres. Oui, j'essaierai de donner des exemples, mais ce sont des exemples. Aucun exemple n'épuisera jamais la liste des exemples possibles. En tout cas, je ne suis pas anthropologue, je n'ai pas de... Je m'en tiens à ça. Je peux essayer de dire des choses, si possible, intéressantes pour nous qui sommes plutôt des Occidentaux, même si c'est compliqué, même si c'est mélangé. Voilà. Essayer de dire quelque chose qui peut nous intéresser, nous autres, plutôt occidentaux, aujourd'hui, à partir des sources grecques que je connais. Est-ce que j'ai répondu, à peu près ?
Tu parlais de l'échangeur dans le texte de la dernière séance.
Oui.
Espace social ou pas ?
Ben voilà les questions. En fait, je parle de l'échangeur parce que une partie de cette réflexion, bon, les allusions sur l'hypermoderne de tout à l'heure, c'est le texte de... Je trouve plus son nom...
De Marc Auger ?
Marc Auger, sur les non-lieux, etc. Donc, il me semble assez clair que Marc Auger, je pense que ça ne serait pas difficile de le montrer en ouvrant son livre et en lisant quelques passages. Pour lui, un espace est d'autant plus social qu'il est ouvert à la rencontre. C'est-à-dire, finalement, il fait du croisement de rue traditionnel, par définition, le croisement, c'est un lieu dans lequel on va. Ou des gens qui se... Alors, soit c'est le croisement des routes, soit c'est le croisement des personnes sur une même route. Et si je croise quelqu'un sur une route traditionnelle d'autrefois, eh bien, nous nous disons bonjour, nos regards s'échangent, etc. Dans un monde modernisé, c'est-à-dire, par hypothèse, le monde où la dimension sociale de la vie s'est développée. Donc, disons, nous, voilà. Dans le métro, nous faisons quand même tout ce que nous pouvons pour ne pas croiser les regards. Voilà. Et peut-être que ce n'est pas une idée stupide, parce que si nous devions dire bonjour à tous ceux qui prennent le métro dans la même rame que nous en même temps, plus personne ne pourrait vivre, traverser l'espace social, etc., aller d'ici à là. Donc, ça a du sens de ne pas se dire bonjour. C'est un paradoxe de dire des choses pareilles. Mais il faut affronter cette vérité-là, cette réalité-là, je ne sais pas comment... Alors, c'est la même chose pour l'échangeur. Donc, c'est une question que je me pose. D'ailleurs, qu'on peut aussi se poser, d'une certaine manière, interpréter le mouvement des Gilets jaunes avec ce genre de questions en tête. Les ronds-points, c'est des croisements, enfin, c'est des endroits dans lesquels ces gens ont cherché à ce qu'il y ait du croisement, au sens... pas du croisement de gens qui passent les uns à côté des autres, mais des gens qui s'arrêtent pour se regarder. Il s'agissait d'arrêter une fluidité.
Voilà, ça le reste.
Pardon ? Il s'agissait d'arrêter une fluidité sociale, il me semble. Alors voilà, qu'est-ce que c'est qu'un échangeur ? Pour Marc Auger, c'est un non-lieu. Moi, je pense qu'il faut être peut-être moins drastique et se demander... dans quelle mesure ça n'a pas une certaine pertinence. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il faut essayer cette année de penser positivement les phénomènes sociaux. Je ne dis pas qu'on va rester sur une idée seulement positive. Je pense qu'il faudra revenir l'année prochaine à la critique. Voilà. Il faut commencer ces bonnes méthodes par essayer de donner sa chance à l'objet qu'on essaye d'étudier. Alors finalement, un échangeur, ça a peut-être des vertus. Peut-être que c'est un lieu social par excellence dans la mesure où ça organise des passages. Je n'ai pas d'a priori, à l'heure qu'il est, contre, ni pour, mais pas contre, l'échangeur. C'est le genre de question concrète que je voudrais arriver à aborder sans en décapant, disons, si je peux, un certain nombre d'a priori.
On a une remarque de Camille, je ne sais pas si tu l'as vue, Pierre Damien.
Mais je la prends tout de suite, mais juste avant, par exemple, parce que ça renvoie à des textes, disons, pour moi, dans ma mémoire, il y a Benjamin, disons, Baudelaire, enfin, c'est quand même les premiers, la source de cette notion de passage, c'est quand même Baudelaire, puis Baudelaire lu par Benjamin. Mais si je traduis certaines choses que j'ai lues et chez Baudelaire, et chez Benjamin, je dirais, par exemple, dans un centre commercial, des escaliers, ou dans une gare, des escaliers roulants qui se croisent. Alors, soit ils se croisent, ils sont tous dans la même pente, mais il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Ou bien, dans certains, je sais pas si on voit mes mains, mais dans certains centres commerciaux, ça se croise. Bon, c'est des escaliers roulants, c'est des croisements, ce sont pas les mêmes croisements. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une expérience banale d'humain enfin très socialisé d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Première hypothèse pour cette année, essayez de penser ça positivement. Et on verra après. Mon idée, c'est que c'est pas là. J'ai dit dans mes mots de ce soir, il doit bien y avoir un motif à ces choses-là. Ben, je cherche le motif pour commencer. Voilà, excusez-moi Camille.
Camille dont le micro ne marche toujours pas, donc je me fais le porte-parole. Elle poursuivait par rapport à ta réponse de tout à l'heure à sa question, en disant qu'elle se disait qu'il pourrait être intéressant et peut-être fécond de se demander, par exemple, comment la rue ne correspond peut-être pas aux mêmes catégories d'une culture à l'autre.
Oui, non, mais je suis d'accord que c'est parfaitement intéressant, hein, mais moi, je ne suis pas capable de faire ce travail-là. J'ai pas les méthodes, j'ai pas les connaissances qu'il faut, etc. Donc, c'est un travail à faire. Peut-être je peux imaginer ou espérer que des gens qui, peut-être vous, qui avez la compétence ou les connaissances pour faire ce travail, ce que je dis, vous, comment dire, ferait venir chez vous des hypothèses d'observation. Alors dans ce cas-là, ça serait super. Mmh. Et peut-être même que ça pourrait faire venir des hypothèses d'observation qui auraient une vertu critique par rapport aux hypothèses, je veux dire, soit courantes, soit dominantes dans les disciplines anthropologiques ou sociologiques où vous travaillez. Alors dans ce cas-là, si ça fait venir des hypothèses critiques, ce que je suis en train de dire est en train de vous mettre sur une piste de recherche dans votre champ disciplinaire, ben ça c'est super si on réussit ça.
On a une main levée.
Oui.
L'autre, je t'en prie. Alors, ton micro était... Ah oui, c'est bon.
T'entendez?
Oui, c'est bon, t'entends.
Oui, je disais merci beaucoup déjà. Et ma question, c'était, est-ce que vous allez nous dire, à un moment donné du séminaire, de quel type de relation il s'agit, du coup, avec autrui dans l'espace social? Quel type de relation, du coup, on peut développer avec lui en tant que voisin? Est-ce qu'à un moment donné, vous nous le direz?
Oui, je vais essayer de le dire même la prochaine fois. Peut-être ça suffira pas la prochaine fois, mais oui, bien sûr, je vais essayer de caractériser. Ça va déborder de qu'est-ce que c'est que cette expérience. J'ai conclu là-dessus ce soir du côtoiement, du voisinage. Alors, cela dit, je pense déjà à une suite l'année prochaine parce que j'ai préparé le travail sur 6 séances et elles sont remplies. Donc, et je suis bien conscient que il y a des choses dans la société. Ce que je vais essayer de décrire, de formuler cette année, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un idéal dont je peux quand même commencer à avoir l'idée à partir de faits, de phénomènes qui existent dans la vie sociale, empirique, nous tenons les uns les autres. Mais cet idéal n'est évidemment pas, ne couvrira pas tout ce qui est à penser sous le nom de société. Donc, en fait, ce qu'on va voir cette année, c'est que la société, c'est peut-être un endroit dans lequel le champ social, disons le social, c'est un endroit dans lequel se trouve. Est-ce que le mot que je veux dire, je le garderai, j'en sais rien encore, se trouve en lutte, mettons des idéaux ou des perspectives ou des intentions ou des points de vue. Bon, c'est-à-dire que peut-être que ce qu'il y a de positif dans le, ce que je pourrais penser positivement dans le social, j'ai annoncé, c'est les côtoiements, les voisinages, etc. Mais dans le social, il y a aussi quelque chose qui tient à empêcher le voisinage, le côtoiement, etc. Quelque chose qui tient à nous placer, à nous localiser, à nous déterminer, etc., etc. Donc, en fait, la société réelle, c'est des conflits d'idéaux. Donc, il faudra compléter la description de cette année par une autre description que je ne pourrai avoir le temps de faire qu'en supposant qu'il y aura une suite l'année prochaine au séminaire.
Oui, vas-y.
Est-ce qu'il est prévu aussi qu'à un moment on évoque le dispositif par lequel on
est-ce qu'à
un moment il est prévu qu'on évoque le dispositif par lequel on se parle, qu'on se voit?
Je peux répéter. Est-ce qu'à un moment il est prévu qu'on évoque le dispositif par lequel on se parle, on se voit? Donc en ce moment là. Oui.
Oui. Mais oui, bien sûr. Bah, c'est un... Vous êtes pressé que je réponde ou j'ai le droit de proposer des rendez-vous ultérieurs?
Non, c'est bon, c'était par curiosité. Ça peut être.
Oui, bien sûr. En tout cas, essayez de faire des propositions pour aller vers l'analyse de ces trucs-là, vous dites dispositif. Je serai moins précis pour commencer. Donc, je veux dire, c'est un truc, ça c'est sûr. Un truc, c'est un mot que je trouve bon pour traduire le vieux mot grec mécané, qu'on peut traduire par machine ou machin, un machin. Qui a un truc. Alors, un machin, la différence peut-être entre un machin et un truc, d'un côté et une machine, c'est que peut-être la machine, on sait à peu près en quoi elle consiste. Dans une machine à vapeur, on sait comment c'est fait, c'est une machine. C'est pas un machin. Alors, peut-être que les trucs-là avec lesquels on est en train de se parler, justement, c'est des trucs, c'est des machins. On ne sait pas exactement ce que c'est, on ne sait pas trop en quoi ça consiste. Et bien justement, on commence, il me semble, j'espère, à avoir des questions pour interroger ça. C'est-à-dire, par exemple, sommes-nous en train de nous rencontrer là tout de suite? Alors peut-être la semaine prochaine, dans 15 jours, quand j'aurai un peu plus précisément dit ce que j'entends par cette notion-là, qu'est-ce que c'est que la rencontre, on pourra un peu plus précisément... Sommes-nous en train de nous rencontrer, de nous côtoyer, de nous éviter? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. En fait, si on va au bout du raisonnement, en tout cas, peut-être que je garderai pas par la suite ce que je suis en train de dire là, mais enfin, bon, tout de suite, je vais le dire comme ça. Peut-être que si on va au bout du raisonnement, on s'apercevra qu'en fait, il n'y a rien dans le social qui soit tout d'un côté ou tout de l'autre. Voilà. Cette espèce d'ambiguïté où nous sommes, elle n'est pas idéalement sociale, elle est réellement sociale. Enfin, ce n'est pas un idéal social. Nous sommes en train et à la fois de nous rencontrer et de ne pas nous rencontrer, de nous côtoyer. Voilà. Et peut-être que ça a une grande dimension sociale. Peut-être que c'est plus social, par exemple, un lieu de télétravail. Pardon, pas un lieu de télétravail. Peut-être un télétravail, c'est plus social qu'un lieu de travail, paradoxalement. C'est plus social qu'un lieu de travail parce qu'il n'y a pas comment dire, c'est la question du dégradé que j'évoquais, du nuancier. Voilà. Dans un lieu de travail, il y a du social et du personnel. Il y a des rencontres, quand on voit quand même des gens, il y en a qu'on aime plus que d'autres, il y en a qu'on a envie de voir plus que d'autres. Il y en a même peut-être avec qui on aimerait bien avoir une relation plus privée, et d'autres pas du tout. Voilà. Il y a des affects, etc. Peut-être que le télétravail, c'est un lieu beaucoup plus désaffecté des éléments, des relations privées, au sens des personnes. Et du coup, c'est un espace beaucoup plus social. Peut-être. J'ai quand même un peu répondu.
Merci.
Ah, il est 19h15, alors c'était l'heure prévue à peu près pour terminer la séance, mais on a encore du temps. Mais enfin, je ne sais pas, toi, Pierre Damien. Mais...
Ah, non, maman, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous êtes là.
Hein. Bon, j'en suis la discussion, mais si certains doivent partir, bien sûr, vous pouvez. Vous pouviez déjà, mais vous pouvez, en sachant que on va pas s'arrêter tout de suite de discuter, mais que ça ne signifie pas que vous êtes obligé de rester devant votre France, mais vous avez besoin d'y aller. Bon, plusieurs questions. Donc, j'essaye du coup de rentrer dans l'exercice et de chercher peut-être des formes de lieux sociaux, première question, je me demandais si le couloir peut-être en complément peut-être de l'échangeur, si le couloir n'était pas aussi un lieu social. Et qu'est-ce qui faisait du coup les qualités du couloir?
C'est une très bonne question. D'ailleurs, ça me rappelle un mémoire de Master 2, dont à l'époque j'étais encore en poste à Paris 1. Officiellement, on peut dire que j'étais le directeur de ce mémoire. Je pense que c'est surtout l'étudiant qui a fait son travail, mais c'était très très intéressant. Vraiment, très, très, et ben, voilà, c'était la question qu'il posait. Ça avait l'air d'être une petite question, mais en fait, c'est une question. Même toutes les architectures n'en contiennent pas, etc. Ben voilà, oui, une question que je trouve très intéressante. Qu'est-ce que c'est au juste un couloir? Il y a les couloirs dans la maison, mais il y a aussi des couloirs dans les espaces dits publics, et qu'en fait, qui sont en fait des espaces sociaux, ou des étendues sociales, ça dépend justement. Je ne sais pas répondre. Malgré ce mémoire qui a existé, je ne sais pas répondre à cette question. Mais voilà pourquoi, d'une certaine manière, je fais tout ce discours. C'est pour qu'on arrive à poser des questions aussi simples. Où est-ce, parce que si on arrive à discuter de ça, qu'est-ce que c'est qu'un couloir, peut-être on saura quand est-ce que c'est bien d'en mettre et quand est-ce que c'est mieux de ne pas en mettre, par exemple. A priori, j'aurais tendance à dire, enfin, l'idée que je me fais du couloir, c'est que c'est un endroit, c'est peut-être une façon, enfin, c'est ambigu, quoi, parce que c'est une façon d'organiser un passage et en même temps de le contenir, de l'obliger. Dans un couloir, on peut pas, faut marcher droit. Donc un couloir, c'est quand même un objet un peu qui discipline un passage. Je pourrais peut-être dire ça.
Oui. J'avais en tête aussi un exemple que tu avais beaucoup utilisé aussi dans les cours de master avec la place de métro, les croisements de métro à Châtelet.
Oui.
Il y a pas tellement de couloirs. Enfin, il y a des couloirs, puis il y a un moment où il y a plus de couloirs et puis on se cogne.
Ah ouais. Oui, bah, la station Châtelet et l'aménagement de la station Châtelet, que ce soit l'aménagement historique, c'est-à-dire lors de la création de l'immense conjonction de RER et de métro qui se tient là en sous-sol, et puis sa rénovation, disons, depuis une grosse quinzaine d'années, c'est un sujet qui m'intéresse, que je suis allé voir au fur et à mesure de son évolution. Oui, c'est des questions. C'est un endroit dans lequel, comment dire, la tension, peut-être la double dimension irrémédiable du social se joue, se manifeste plus que jamais. Donc, c'est des questions très concrètes pour les gens qui doivent, alors, dire, aménager l'espace, ça ne j'aime pas trop, mais ménager de l'espace. Alors, si on veut ménager de l'espace dans un endroit comme celui-là, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Des escaliers, des trottoirs roulants qui vont canaliser, discipliner les passages, mais permettre que quand même ils aient lieu, ou laisser les gens aller et venir dans tous les sens au risque de produire des blocages, etc. Voilà, c'est des questions. Qu'est-ce qui est le plus social?
Je pense, après, je m'arrête, hein, mais je pense aussi à ce début, en fait, de séminaire où on avait abordé la porte,
le pont,
le chemin. Je ne sais plus, c'est le chemin. Et du coup, avec le couloir, je trouve qu'on revient à cette idée aussi de recherche formelle des espaces publics, privés et peut-être que dans le couloir, il y a effectivement cette idée de couler. De s'écouler. Peut-être le lieu social, c'est quelque chose où il y a de l'écoulement. Quoi. J'essaie de formuler.
L'écoulement, ça fait penser à la théorie des flux. Il peut y avoir toute une ingénierie. D'ailleurs, je crois que dans certaines stations de métro, c'est à des modèles de ce type-là qu'on fait appel, hein, pour penser la fluidité des flux. Des modèles à queue, comme ça, hein, des écoulements. Mais là, on est en train de discuter d'éléments qui sont, il me semble, dans le registre de l'antre, c'est-à-dire le couloir, c'est entre deux pièces ou entre deux endroits. C'est un lieu de passage entre ceci et cela. Peut-être que ça serait plutôt pour la prochaine séance, disons, l'absolu du concept, le cœur du concept de passage, c'est pas entre ceci et cela. C'est pour ça que j'interrogeais la notion de la différence entre l'inter et le trans. Hein.
Et le couloir, c'est encore peut-être un dégradé de l'espace public au privé, inversement. Ouais.
Je pense au train. Bon, on a parlé du métro, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin que ça du métro. Le train, et je pense au train comme lieu, donc pas forcément comme lieu entre deux lieux, mais comme lieu lui-même, qui est d'ailleurs pas seulement un espace, mais aussi un temps. Après, ça va toujours ensemble. Un temps passé dans le train et en revenant à l'effort de la SNCF pour provoquer des rencontres dans le train, et en particulier récemment, j'ai vu, alors je sais pas, ça doit dater d'il y a pas tellement longtemps, mais une application qui permet justement, ou même plus qui permet, qui invite, peut-être pas qui incite non plus, mais qui invite à discuter entre passagers du train. Entre passagers du train pour se rencontrer.
Alors, tu fais bien de dire ça, parce que ça va me permettre de préciser quelque chose. Mais toute façon, j'en reparle dans 15 jours, ça c'est sûr. Mais peut-être parce que j'ai peut-être dans ce que j'ai dit ce soir laissé entendre à un moment donné. Quelque chose d'un peu ambigu, quand je dis peut-être l'idéal de la société, c'est le passage, pas la rencontre. qu'il y ait des rencontres dans un endroit qu'on appelle social, comment dire, qui n'est pas fait pour ça, qui n'est pas fait pour qu'il y ait des rencontres. Le fait qu'il ne soit pas fait pour qu'il y ait des rencontres n'empêche peut-être pas qu'il y en ait quand même des rencontres. Mais que lorsque la rencontre se produit et surtout se développe, dans une certaine mesure, elle désocialise, elle se désocialise et elle désocialise ceux qui sont là, quand bien même ils sont toujours dans le train, dans l'espace qu'on dit social, etc. Ils se retirent, les gens qui se sont rencontrés, d'une certaine manière, se retirent du social, je ne sais pas comment dire ça, en tant que tel. Bon. Qu'il y ait de fait de la rencontre dans le social, c'est incontestable et c'est même peut-être très très bien, évidemment. Je ne conteste pas ça. En revanche, quand on pense le social en se disant il faut que s'y provoquent des rencontres, mais qu'on organise quelque chose pour ça. Donc, en effet, c'est les aménagements de la dernière génération des wagons de train avec leurs espaces de rencontre. Voilà. Ou quand on fait l'aménagement de la place des fêtes à Paris récemment avec des bancs apparemment disposés en négligé comme si c'était des gens qui s'étaient rencontrés, qui les avaient laissés là. Enfin, ce genre de... Autrement dit, quand on fait de la rencontre, quand on oblige le social à la rencontre, un espace social à la rencontre, ça c'est autre chose. C'est pas une rencontre qui se fait, que je fais moi avec quelqu'un qui me rencontre, que je rencontre, etc., dans le registre de liberté. C'est organisé pour, c'est pas du tout pareil. En fait, c'est ça que je veux critiquer. Ça, je vais le critiquer. L'idée que le social, c'est quelque chose qui est organisé, c'est dehors du trans, j'ai dit ce soir, c'est-à-dire c'est organisé au-delà des personnes. Alors justement, que ça soit organisé au-delà des personnes pour que les personnes se rencontrent, ça veut dire qu'elles sont gérées, les personnes. Ça veut dire qu'elles sont gérées, les personnalités. Alors ça me gêne terriblement. Ça, j'ai pas beaucoup d'espoir là-dedans. Mais ça, je pense que je ne pourrais pas ne pas en faire la critique.
C'est pour ça que je disais ce mot-là, justement une application qui invite à la rencontre, parce que entre rendre possible ou alors simplement de fait une rencontre est possible dans un espace qui n'est pas prévu pour
ça c'était Michel de Certeau que Marc Auger a lu, mais il a lu à sa façon. Moi j'ai pas lu Michel de Certeau comme Marc Auger, mais je pense que justement c'est ça que je trouvais bien dans les textes je trouve toujours bien dans les textes de Michel de Certeau, ou alors j'ai rien compris à Michel de Certeau, mais enfin moi, ce que j'ai retenu, c'est que justement ce qu'il appelle les tactiques des usagers, c'est que de fait, d'eux-mêmes, ils font quelque chose de ce que Marc Auger appellera des non-lieux, mais que Michel de Certeau appelle pas comme ça. De fait, il y a des rencontres. C'est pas la même chose. De fait, il y a des rencontres et on fait en sorte que les rencontres soient possibles. C'est différent. Et alors, c'est encore différent de on organise pour que les rencontres soient inévitables. Mmh. C'est-à-dire, on a comme perspective, il faut que les gens se rencontrent.
Ouais, il y a le truc aussi, il faut que les gens ne se rencontrent pas.
Pardon ?
Bon, là, il y a aussi l'autre organisation qui fait qu'on évite justement aux gens de se rencontrer et de stagner. Quoi,
parce qu'il y a... On interdirait les rencontres.
Là, je vois, c'est un exemple très concret et très, très bête, mais qu'on vit tous les jours. À l'entrée de c'est une résidence dans laquelle on vit, et à l'entrée, il y a tout un espace qui est très grand, qui pourrait être vraiment occupé par les enfants, etc. Il y a toute une partie qui a été volontairement surélevée, mise en herbe, et donc qui dessine un passage. Et en fait, de fait, ça empêche toute activité, ça empêche même aux gens de parler entre eux, parce qu'on est rapproché des fenêtres, donc on va déranger beaucoup plus vite si on s'attarde, etc. Donc tout est organisé. Enfin, il y a une politique de copro qui est organisée justement pour éviter de stagner, de se rencontrer dans des lieux justement où on pourrait, et ça marche assez bien en fait, hein, d'avoir ce passage, personne ne s'attarde. Enfin, bref, c'est... Donc,
moi, je... Alors, bon, C'est embêtant parce que je suis enregistré et ça va rester, donc il faut quand même que je ne dise pas trop de bêtises.
Peut-être couper maintenant.
Mais oui, après, on pourra peut-être couper parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné, moi en tout cas, je me détende un peu. Ouais. Mais je vais quand même répondre en étant enregistré. Je veux dire quelque chose qui va peut-être me faire des amis, qui va sembler rude, trop rude, j'en sais rien, mais le fait que des rencontres soient empêchées en certains endroits n'est peut-être pas absolument quelque chose contre quoi il faudrait s'élever. Voilà. Je veux dire, par exemple, que bien sûr, c'est des concepts, c'est des idées, c'est des idéaux. Mais bon, là, je m'abrite derrière Hannah Arendt. Il me semble qu'elle pensait que, et je la suis, que un espace public, c'est pas fait pour la rencontre. Ou alors, il faut s'entendre. Évidemment, si je vois quelqu'un que je lui parle, que je lui dis bonjour, c'est une politesse. Mais c'est pas une rencontre, c'est pas ce que je veux entendre quand je dis rencontre. Quand je dis rencontre, c'est engager une relation personnelle. Dans l'espace public, il me semble qu'Anna Arendt nous a proposé de penser que c'était pas un endroit dans lequel il s'agissait de se rencontrer personnellement. Il s'agit d'opposer des idées sur ce qu'on peut faire ensemble. Mais pas ensemble. En tant que personne, ce qu'on peut faire ensemble quand on est deux, par exemple, c'est s'aimer, ou pas. Enfin, le ensemble veut dire l'ensemble de la communauté qui s'identifie. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Dans une certaine mesure, on peut dire que la condition pour qu'on parle de ça vraiment, c'est qu'on ne soit pas embarrassé par les affects propres aux relations personnelles. Il faut être désaffecté pour parler bien en politique, pour parler vraiment en politique. On peut soutenir cette idée-là. Voilà. Donc, à ce moment-là, un espace public, c'est un espace qui vaut mieux qu'il soit fait pour que les rencontres n'aient pas lieu. Voilà. Et ça ne veut pas dire que dans la vie en général, il est bon que les rencontres n'aient pas lieu. Non, dans la vie en général, il y a des endroits où il est bon qu'on puisse... bon, c'est pas mal heureux, c'est un bonheur de se rencontrer. Mais c'est peut-être pas un bonheur de se rencontrer partout, et ça serait pas un bonheur que la rencontre soit une obligation. D'ailleurs, je pense que c'est conceptuellement impossible. Si je suis obligé de rencontrer quelqu'un, je ne rencontrerai pas cette personne, ni elle moi.
C'est surtout un constat formel en disant qu'effectivement, en fait, ça, vraiment, la forme d'un même endroit pourrait permettre certaines choses si elle avait été libre ou... Enfin, ça se constate par la forme, c'est oui. Ça que je ne t'aide pas tant
parce que c'est bon, bien moi, je ne sais pas si je comprends bien. Dans ce cas-là, bon, mais je réponds à brûle pour point, j'ai peut-être pas raison. Peut-être qu'il faut qu'on passe en off maintenant pour que je puisse dire des bêtises.
Je passe en off, là
Non, je vais terminer. Après, on le fait. Je vais quand même terminer. Mais en fait, ce que j'allais dire est en train de m'échapper... Moi, je sais pas, là, tout de suite, comme ça, j'ai envie de proposer l'idée que... je sais que ça va contre, mais je me rappelle de travaux d'étudiants, beaucoup, 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 qui poussaient dans ce sens-là, il y a une grosse dizaine d'années, la polyvalence des lieux. Peut-être que c'est pas une bonne idée, que justement, il faut assumer que privé, social, public, c'est pas la même chose, et que il faut spécifier. D'ailleurs, plus ça va, plus je pense que le mot spécifique, c'est un beau mot. Dans le livre d'Adolf Korfmann, qui est pour moi un livre très précieux sur la forme animale, qui est très précieux parce que ça me permet de penser la notion de forme, donc peut-être la notion de forme en design, etc. J'ai trouvé ce mot spécifique, spécifié, etc. Peut-être en fait, il faut qu'on pense à spécifier. Qu'on n'hésite pas à penser des lieux qui soient spécifiés ou spécifiques et pas polyvalents. Peut-être. Voilà. Je veux bien rester à à parler, mais en couple, on arrête l'enregistrement parce que là, je suis fatigué.
Je te coupe.